excusez-moi, vous avez un crayon.
Il y a certainement une ou deux personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Alors, je voudrais commencer, si vous le voulez bien, en souhaitant la bienvenue, en particulier à ceux qui, comme à chaque séance, ça nous arrive pour notre grande joie, qui nous rejoignent. Bienvenue. Je voudrais commencer par vous dire un mot de la suite de notre travail, et en particulier de la prochaine séance. Il nous arrive au sens propre du mot, quelque chose d'extrêmement bienvenu. Vous vous souvenez peut-être que la prochaine séance était annoncée pour le 5 février, et à partir d'ailleurs du 5 février, nous allons changer de jour et d'heure. Nous retrouverons le lundi après-midi, ce qui va embarrasser certains d'entre nous, je le sais, mais en revanche, ce qui va permettre à d'autres de nous rejoindre. Le 5 février, ceux qui ont peut-être à l'esprit un petit peu le souvenir de notre programme se souviennent que nous avons pour invité Georges Banu, qui est professeur à l'université Paris-3, à l'Institut d'études théâtrales, et qui vient nous voir pour parler de Grotowski. Il est évident que l'expérience grotowskienne. Tiens, vous avez le programme, Jeanne, si vous voulez. Là, j'ai changé d'entre là.
C'est le programme.
C'était le programme. Oui. Non, mais il y en a. C'est simplement pour les nouveaux, parce qu'il y en a des arrivants, parce que les autres l'ont eu. Georges Banu, entre autres savoirs innombrables sur le théâtre d'aujourd'hui, est un excellent connaisseur de Grotowski. Comme vous savez, on l'a dit depuis le début, la problématique de Grotowski non seulement est un peu au centre de ce que nous avions, la question que nous sommes posée, mais nous avons même emprunté à un écrit de Grotowski l'articulation de notre question. Cet écrit, c'est une conférence de Grotowski qui s'appelle à l'art comme véhicule, du spectacle, du théâtre comme spectacle, à l'art comme véhicule, et qui se trouve dans le recueil de Thomas Richards, que ce même Georges Banu avait publié chez Actes Sud. Bonjour.
Salut Bernard,
salut à toi. Alors, il se trouve que nous cherchons donc ici le sens des expériences qui ont consisté à travailler, à faire du théâtre pour les acteurs. Nous ne le cherchons pas parce que nous voudrions supprimer le public, pas du tout. Au contraire, en un certain sens, nous aboutissons au résultat inverse, mais nous le cherchons parce que c'est une espèce de variation que nous produisons pour essayer de comprendre ce qu'il en est du jugement de ceux qui jouent, du jugement sur la scène, jugement dans le jeu. Et pour savoir ce qu'il en est du jugement dans le jeu, la faculté de juger, si elle se trouve à l'œuvre chez les joueurs, eh bien, nous avons essayé d'interroger la tradition, des expériences qui ont essayé de suspendre la présence des spectateurs. Pour voir comme ça qu'est-ce qui se passait, c'est une espèce d'expérimentation, quoi, pour nous. Rétrospective. Or, évidemment, Grotowski est au centre de cela parce que Grotowski, et en particulier dans les 20 dernières années de son travail et de sa vie, s'est lancé très profondément dans une expérience de cette sorte. Et disait très explicitement que son objet était de produire une activité dont le lieu, à la fois de synthèse, d'évaluation, et de mise en forme, soit le comédien lui-même, et dont le spectateur soit presque éconduit, en tout cas marginalisé. Voilà. Alors, donc, pour dire que cette affaire grotowskienne, et en particulier, est absolument centrale pour nous. Or, il se trouve que Georges Banu prenant les choses très à cœur et très sérieusement, a décidé d'aller aux sources et est allé chercher les documents, et en particulier les documents audiovisuels, et en particulier un film qu'il cherchait portant sur le travail de Grotowski dans les dernières années. Ce film existe, il se trouve à Pontedera, qui est le lieu où Grotowski a travaillé les dernières décennies. Et donc, Banu est allé chercher ce film. Il l'a trouvé. Et ce film qui a été tourné à une vingtaine d'années, il s'est donc adressé à ce même Thomas Richards, qui était l'assistant de Grotowski pendant les longues périodes de sa vie, toute la période de Pontedera, mais déjà un peu la période américaine, et qui a pris la suite de cet atelier qui s'appelle maintenant Grotowski, Jerzy Grotowski and Thomas Richards Center. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que Thomas Richards a répondu ceci à Banu. A répondu oui, le film existe, on est tout à fait d'accord pour le montrer. Il y en a un autre, beaucoup plus récent, qui est un film qui date de 2003, si mes souvenirs sont bons, et qui est presque, à ma connaissance, qui a été vu par très peu de gens, et qui porte sur les expériences, le travail de Grotowski pendant la dernière période. Et Thomas Richards a proposé de nous montrer les deux et de venir avec ces deux films pour en parler avec nous. Évidemment, est une pure merveille pour ce qui nous concerne. Alors, grâce à Liri, grâce à Bernard et à Vincent, avec qui j'ai parlé, Vincent Puig, qui va d'ailleurs probablement nous rejoindre dans la matinée, avec qui j'ai parlé hier, il s'avère qu'il est possible d'accueillir Thomas Richards pour le 5 février, et donc on va s'occuper de ça. Il reste pas mal de questions, et entre autres, des questions pratiques, techniques, dont Julien, Florent vont s'occuper, parce que moi, j'imagine les choses comme ceci, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Pour moi, l'idéal, mais c'est une hypothèse, hein, serait qu'on projette, donc je ne sais pas où, c'est la question qui inquiétait un peu Vincent, sur laquelle il va falloir qu'on essaie de trouver une solution, qu'on projette le premier film, qui s'appelle, je crois, L'Action.
Et qui est en vidéo, tu as vérifié ça?
Et on est en train de le vérifier. J'ai appelé Banu hier soir, je lui ai posé la question, je lui ai dit de vérifier auprès de Thomas Richards dès que possible. Donc, l'idéal serait qu'on projette le premier film, j'imagine, par exemple, en fin de matinée, ce jour-là, à 11h, à midi, pour tous ceux qui veulent le voir, qui souhaitent le voir, je ne sais où, qu'on aille bavarder ensemble, peut-être avec notre invité, et puis que la séance ait lieu comme prévu le lundi après-midi, que la séance commence par la projection du deuxième film, parce que Thomas Richards souhaitait qu'on procède comme ça, et que c'est vraiment le deuxième film qui lui paraissait indispensable, prévu par tous les participants à la discussion, qu'on projette le deuxième film, chacun de ces films dure une heure environ, et puis qu'on travaille après avec lui, avec Banu, avec nous tous, qui nous promet une séance de tout premier intérêt. Voilà, donc on en est là, c'est ce qui va se passer, que vous recevrez les informations par votre email, bien sûr, en cours de route, et ça peut évidemment varier en fonction de ce qui va être possible maintenant, techniquement, pratiquement, du point de vue du calendrier, des horaires, etc. Évidemment, en général, c'est une grande chance de voir ces documents et de pouvoir en parler avec eux deux, mais en particulier vu ce qu'est notre objet. Et d'ailleurs, c'est frappant que le courrier de Banu racontait un peu à Richard ce qu'on faisait. Il a dit, ben voilà, je viens, c'est lui qui l'a proposé pour parler de tout ça avec vous. C'était vraiment intéressant. Voilà, donc c'était juste l'information que je voulais donner pour expliquer que le programme de la prochaine séance va être un tout petit peu peut-être modifié par nos prochains mails, et on va voir comment les choses se passent.
Et ça veut dire aussi que peut-être on pourra inviter quelques personnes.
Ben oui, bien sûr. Avec plaisir. Comme on le fait toujours, et à fortiori en cette circonstance. Voilà. Alors, cela étant dit, enfin, sauf si vous voulez des informations complémentaires ou apporter quelques commentaires que ce soit. J'espère qu'on va y arriver dans les délais et tout ça. Bon, mais enfin, moi, à mon avis, on va le faire. Et à la limite, si on n'y arrive pas pour la semaine de la prochaine fois, on aura une autre date. Mais enfin, j'aimerais bien qu'on y arrive. Puisqu'il y a une conjonction, que tout le monde est d'accord. Merci en tout cas à Liri de rendre cette chose possible. C'est si elle est réalisable concrètement. Et c'est vraiment, je crois, une aide très précieuse. Alors, pour introduire la séance d'aujourd'hui, je voudrais vous vous souvenez que nous avons parlé déjà de Diderot la séance précédente, mais plutôt d'un texte de Diderot de la fin des années 50 du siècle, les entretiens sur le fils naturel, et de l'ensemble du petit roman dont il a encadré la pièce Le fils naturel, qui raconte une fiction d'une expérience de théâtre sans spectateur, mais il s'est bien avéré qu'il y en avait tout de même un. Un théâtre des acteurs, pour les acteurs. On en a parlé, même cette formule est un peu fausse, mais je n'y reviens pas. On a mis cette expérience en rapport avec un texte de Eisenstein, qui la commente d'ailleurs, et qui s'appelle Diderot à parler de cinéma. Et on a caractérisé une configuration qui se situe assez étrangement entre ce Diderot première période ou première manière et le Eisenstein analysant une certaine place du cinéma comme accomplissement d'un certain rêve du théâtre que le théâtre n'arrivait pas à réaliser. Et puis, dans la préparation de cette séance, il nous était apparu qu'il serait d'autant plus important, du coup, de confronter cela avec ce qu'on pourrait appeler le Diderot de la deuxième période, c'est-à-dire le Diderot du paradoxe. Alors le paradoxe, évidemment, c'est un texte qui est un des textes les plus commentés, les plus lus, les plus discutés, les plus réécrits qui soient, dans ce champ au moins. Je voudrais essayer de vous dire comment il me semble que ce texte peut nous aider à articuler notre question et peut-être même à essayer de gaucher des réponses. Alors, j'ai imaginé de faire les choses en deux temps. Soit que ces deux temps soient séparés dans le déroulement de la séance, comme nous l'avons fait plus d'une fois, soit que je les associe, excusez-moi, c'est mon téléphone, soit que je les associe, ça va ressonner parce qu'il y aura un message, soit que je les associe dans cette très brève présentation que je vais vous faire et que nous débattions de tout cela après. De quoi s'agit-il avec ces deux temps? Je voudrais d'abord relever quelques éléments qui se trouvent dans le paradoxe, dans le texte de Diderot, les pointer comme ça, et qui, me semble-t-il, éclairent la question que nous nous posons. Et puis d'autre part, après cela, je voudrais poser un problème concernant notre affaire, la place du jeu envisagée de cette façon-là dans notre temps et dans celui qui s'ouvre, qui vient. Alors, voilà ce que je vous propose pour mettre un peu d'éléments dans notre conversation, très brièvement, puisque nous n'avons pas d'invité extérieur aujourd'hui, c'est pour donner un peu de matière à notre lecture. Nous connaissons tous ce texte, d'une certaine façon, mais en même temps, chaque fois qu'on le relit, c'est un des textes que j'ai le plus relu, je ne cesse de le relire, chaque fois qu'on le relit, on y trouve d'autres choses. Alors, la première chose que je crois qu'il faudrait relever, je ne l'ai jamais fait précédemment, je le fais pour la circonstance, et la raison est très claire, ça, c'est la situation du concept et du mot jugement dans le paradoxe. Hein. Parce qu'évidemment, je ne m'étais jamais occupé de ça spécialement, mais là, l'occasion s'en présente, et le voici, comme dit l'autre. Alors, la question du jugement est très présente dans le paradoxe, mais elle est en particulier articulée dans la séquence d'ouverture. Un relevé rapide, la montre diffuse, mais enfin, elle est quand même assez concentrée dans la séquence d'ouverture du paradoxe. Tu veux un paradoxe, Michel? Tiens, je t'en prête un. J'ai aussi une faculté de juger, mais c'est pour tout à l'heure. J'ai besoin de vos lumières kantiennes pour la deuxième étape. Heureusement que Bernard et Michel sont là, je compte sur eux pour nous aider à débrouiller notre affaire. Alors, dans cette première séquence du paradoxe, ce qui apparaît clairement, c'est ce que nous disions la dernière fois, c'est que le paradoxe est un texte où, très explicitement, s'opère une conjonction entre la faculté de juger et ce que nous avons appelé la faculté de jouer. C'est-à-dire que le jeu, en tout cas le jeu tel que Diderot veut le défendre et l'illustrer, le jeu est repose sur, à mon certain sens, se confond avec un exercice de la faculté de juger. Alors, je vous en donne quelques signes, quelques expressions, quelques traces. Tout le monde n'a pas évidemment de paradoxe sur soi. On vous a pas photocopié le paradoxe à tout le monde parce que je vous l'ai dit dans le mail, donc on l'a pas fait pour les raisons que vous savez. Mais en fait, je vais vous en donner quelques exemples. En prenant des exemples significatifs, hein, parce que c'est, il y en a qui sont dès les premières lignes, dès les premières pages, il y a le mot jugement, juger qui apparaît, mais bon, ouais, je vais pas. Au moment où, après 4-6 pages dans mon édition, au moment où le premier des deux interlocuteurs, au moment où le premier vient à dire ce qu'il appelle le point important. Vous savez que le paradoxe commence ceci, les deux interlocuteurs commencent par cette réplique célébrissime, n'en parlons plus, hein, moyennant quoi ils vont en parler évidemment pendant tout le temps du texte, n'en parlons plus de quoi, il s'agit d'un livre que le premier, qui est supposé être Diderot. Mais nous reviendrons sur cette affaire qui est extrêmement intéressante. Le premier qui est supposé en un certain sens être Diderot, dont le premier dit au second qu'il ne l'aime pas. Il n'aime pas ce livre. Hein. Il s'agit du livre Garrick ou les acteurs anglais contenant des réflexions sur l'art dramatique. Bon. Dit que c'est un mauvais livre. Alors que c'est, dit-il au premier, l'ouvrage de votre ami. Donc c'est un ouvrage qui lui paraît peu utile et pas mal fait. Bon. Et puis il dit, bon, il y a quelques 4-5 pages consacrées à discuter ce point, mais très comme une espèce de mise en bouche ou de mise en voix ou de mise en jambe. Et puis il arrive à une réplique, c'est la réplique qui commence par la référence au carrefour de Bussy, dont à laquelle je suis très sensible. Les mêmes mots qu'il se sert énonçant une chose au carrefour de Bussy est une chose différente à Drury Lane, mais bon, dans cette réplique, il dit « Mais le point important sur lequel nous avons des opinions tout à fait opposées, votre auteur et moi, ce sont les qualités premières d'un grand comédien. » Alors, vous voyez la réplique, ceux qui ont le texte sous les yeux, c'est la réplique qui commence par « Les mêmes mots dont il se sert énonçant une chose au carrefour de Bussy et une chose différente à Drury Lane, il faut que je l'avoue à regret. » C'est plutôt vers le début, après 5-6 pages. Ah ben, vous avez pas la même édition, sinon on aurait pu donner. Sinon, c'est encore une autre. Bon. Voilà. Mais le point important, sur lequel nous avons des opinions tout à fait opposées, votre auteur et moi, ce sont les qualités premières d'un grand comédien. Point. Moi, bonjour Sylvie, moi, je lui veux beaucoup de jugement. Voilà. Qualité première d'un grand comédien, moi, je lui veux beaucoup de jugement. Ceci est explicité dans les lignes qui suivent. Il me faut dans cet homme un spectateur froid et tranquille. J'en exige par conséquent de la pénétration et nulle sensibilité, l'art de tout imiter, ou ce qui revient au même, une égale aptitude à toutes sortes de caractères et de rôles. Cette petit paragraphe annonce beaucoup de thèmes dont nous allons parler. Mais la première des qualités premières qui est ici mentionné pour un grand comédien, c'est beaucoup de jugement. Or, vous aurez entendu, même si j'ai essayé de le lire de façon très fluide, vous aurez entendu que immédiatement après, cette faculté de juger, je lui veux beaucoup de jugement, est associée à une position de spectateur. C'est-à-dire, moi je lui veux beaucoup de jugement, il me faut dans cet homme un spectateur froid et tranquille. C'est-à-dire que c'est la première question que je nous pose, en quelque sorte. C'est, oui, Diderot dit que l'acteur doit être capable de juger, mais c'est en tant qu'il est capable de juger qu'il est un spectateur. Hein. Il est un spectateur froid et tranquille. Et c'est ceux qui connaissent un peu le paradoxe savent que tout ça va se déplier pendant de longues périodes. Donc, on voit tout de suite ce qui fait question pour nous. On s'était un peu arrêté d'ailleurs dans la conversation avec Joris. Sur ce point, on voit tout de suite que c'est à la fois une espèce de conjonction entre jugement, bonjour Saul, c'est à la fois une conjonction entre jugement et jeu, Mais en même temps, cette conjonction est aussi une disjonction. C'est-à-dire que la faculté de jouer juger, enfin de juger jouer, c'est une faculté qui n'est exercée par l'acteur qu'en tant que l'acteur se divise en quelque sorte, hein, et qu'il exerce une espèce de dualité, de duplicité. Alors cette duplicité, elle a été longuement analysée, commentée, etc. Il y en a plusieurs thèmes, je vous les donne. C'est le thème auquel je suis très sensible, entre l'être et le jeu. Alors là, les citations sont innombrables, je les tiens à votre disposition. On n'est pas ce qu'on joue, et on joue en tant qu'on ne l'est pas. Hein, j'en ai 10 là, sous les yeux, elles sont chacune et très intéressantes. Mais bon, pas le. Donc c'est la première dissociation. Deuxièmement, c'est la dissociation entre la nature et le modèle, comme vous savez. C'est-à-dire qu'il y a l'acteur est celui qui part de la nature et qui construit ce que le paradoxe appelle un modèle idéal, qui est un modèle plus grand, plus haut, plus élevé, hein, je le dis à vous deux, plus élevé que la nature, et entre lesquels le jeu va précisément, me semble-t-il, jouer. Et le jugement, à un moment donné, est précisément désigné comme capacité de distinguer cela, de distinguer l'un avec l'autre, et pourrait-on dire, de voir les deux et de faire jouer l'un avec l'autre. Je vous donne la citation à laquelle je pense. C'est le célèbre passage sur la Clairon, il y en a plusieurs, hein, sur l'actrice Clairon. Pour dire que Clairon, dont le jeu est, je cite, parfait, procède ainsi. Elle s'est fait un modèle auquel elle a d'abord cherché à se conformer. Sans doute, elle a conçu ce modèle le plus haut, le plus grand, le plus parfait qu'il a été possible. Ça, c'est toute une thématique qu'il faudrait montrer. C'est l'élévation et l'agrandissement. Il y a les deux dans le texte. Hein. Pas seulement dans cette phrase, mais bien avec elle. Mais ce modèle qu'elle a emprunté de l'histoire, ou que son imagination a créé comme un grand fantôme, ce n'est pas elle. Hein, ce n'est pas elle. C'est la dissociation entre l'être et le jeu dont je parlais. Si ce modèle n'était que de sa hauteur, que son action serait faible et petite. Alors, je ne doute point, dit le paragraphe suivant. Le paragraphe commence par « Je ne doute point que la Clairon en ait environ une dizaine de pages après le début du paradoxe. » Je ne vais pas arriver à vous donner les références à toutes les pages. Dans celles que vous avez, Anna, c'est page 74, mais parce que vous êtes la seule à avoir la même que moi. Et donc, il y en a... « Je ne doute point que la Clairon éprouve le tourment du Quesnoy dans ses premières tentatives, mais la lutte passée, lorsqu'elle s'est une fois élevée à la hauteur de son fantôme, elle se possède, elle se répète. Comme il nous arrive quelquefois dans le rêve, etc. Elle est l'âme d'un grand mannequin qui l'enveloppe. Voilà la phrase où je veux en venir. Nonchalamment étendue sur une chaise longue, les bras croisés, les yeux fermés, immobile. Elle peut, en suivant son rêve de mémoire, donc son rêve c'est ce modèle idéal qu'elle a construit de ce qu'elle va jouer, de ce qu'elle va être, de ce qu'elle va faire. Elle peut, donc elle, vous voyez, elle est comme ça sur le lit, et maintenant elle a, ça y est, le modèle est apparu dans sa tête, c'est le grand fantôme, hein, il est là, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut, en suivant son rêve de mémoire, s'entendre, se voir, se juger, et juger les impressions qu'elle excitera. Dans ce moment, elle est double, la petite Clairon et la grande Agrippine. La petite Clairon et la grande Agrippine. Donc, elle est là, elle est complètement au plumard, elle regarde, elle rêve, et elle voit les deux, et elle peut juger. Hein, et elle peut juger, se juger et juger de cette séparation et de cette distinction. Il y a encore autre chose qu'on pourrait citer sur le même registre. C'est la page suivante. Il est question des artistes en général. Et on dit que on ne sait d'où ces traits leur viennent, ils tiennent de l'inspiration. Alors voilà l'inspiration. C'est lorsque suspendu entre la nature et leur ébauche, l'ébauche c'est le modèle. Donc les artistes sont suspendus entre la nature et leur ébauche. Ces génies portent alternativement un œil attentif sur l'une et sur l'autre. Je vous regarde parce que c'est quelque chose qu'on avait discuté avec Joris. Ces génies portent alternativement un œil attentif sur l'une et l'autre. Donc vous voyez, c'est cet exercice très, très curieux d'une espèce de dissociation intérieure, mais dont les comédiens sont en quelque sorte les spectateurs et qu'ils peuvent voilà. Alors, à partir de là, se déplie toute une série de thèmes que je me contente de mentionner. Je ne vais pas on pourrait les regarder très en détail pour chacun d'entre eux, mais je me contente de les mentionner. Premier de ces thèmes, c'est en tant qu'il opère cette faculté de distinction, de dissociation, et qui est en même temps une faculté de spectateur, que l'acteur est un artiste. C'est ce qui lui fait rejoindre la condition des grands artistes. Alors c'est le cas de la phrase que je viens de vous citer, mais enfin, c'est avant cette phrase est introduite par ceci. Et pourquoi l'acteur différerait-il du poète, du peintre, de l'orateur, du musicien? Et c'est bien en cela que tous, suspendus entre la nature et leur ébauche, ils portent alternativement un œil attentif sur l'un et l'autre. C'est ça qui fait la communauté de position entre l'acteur et le... Oui, c'est assez bizarre, parce que l'acteur, il est un artiste dans la mesure où il sait être spectateur de son affaire, quoi. Il sait être spectateur de lui-même. Je ne suis pas tout à fait... Je ne force pas le texte, regardez. Encore un peu plus bas, dans la même page, la réplique suivante. Les grands poètes, les grands acteurs, et peut-être en général tous les grands imitateurs de la nature, quels qu'ils soient, doués d'une belle imagination, d'un grand jugement, d'un tact fin, d'un goût très sûr, sont les êtres les moins sensibles. Ils sont également propres à trop de choses, on va y revenir, ils sont trop occupés à regarder, à reconnaître, à imiter, pour être vivement affectés au-dedans d'eux-mêmes. Je les vois sans cesse le portefeuille sur les genoux et un crayon à la main. Vous voyez, c'est-à-dire c'est ça, le grand artiste, le grand génie, c'est dans cette capacité de spectateur, quoi. De spectateur. Il y a d'innombrables citations qui redisent ça. Bon, je trouve ça quand même assez singulier. Tout à fait à l'autre bout du paradoxe, tout à fait à la fin, en revanche, il y a une citation que je vous indique. Embrasser toute l'étendue d'un grand rôle, eh bien, c'est faire quoi? C'est l'ouvrage d'une tête froide, d'un profond jugement, d'un goût exquis, d'une étude pénible, d'une longue expérience et d'une ténacité de mémoire peu commune. C'est la règle très rigoureuse pour le poète et ce l'est jusqu'à la minutie pour le comédien. Donc vous voyez, c'est cette jonction. Alors c'est assez curieux par rapport à ce dont nous parlons par ailleurs, c'est que, oui, en effet, l'acteur diderotien est un acteur qui juge. Mais il juge en tant que, dans son activité de jeu, il y a une position de spectateur. Voilà, une position de spectateur. Il n'y a pas... C'est assez. Alors bon, on pourrait articuler ça en détail, je n'y reviens pas, mais si vous voulez, c'est ce que nous avons à discuter par rapport aux comédiens. Alors, ça c'était donc le premier thème que je voulais dire, c'est que c'est en cela que l'acteur est un artiste. Deuxièmement, question qui nous occupe beaucoup aussi, question qui me semble doit nous occuper aussi beaucoup, c'est que c'est en ce sens qu'il y a une différence entre agir et imiter, ou agir et jouer. L'acteur dans cette affaire, encore une affaire qui nous... il n'est pas exactement l'agissant, il n'est pas exactement celui qui agit. Alors je vous donne des références. Ça concerne les hommes et les femmes. Alors, le sentir, comme vous savez, comme nous savons tous, c'est une vertu qui est une vertu de la salle, la vertu, la sensibilité excessive, la sensibilité, le fait de se confondre avec la sensibilité, c'est pas la vertu des génies, c'est la vertu des... c'est pas une vertu de la scène, c'est une vertu de la salle, dit-il. Il ajoute, voyez les femmes, elles nous surpassent certainement et de fort loin. Alors là, on est page 77, c'est deux, trois pages plus loin que ce que j'ai cité. Elle nous surpasse certainement et de fort loin en sensibilité. Alors, là, on est dans le topos, on est même dans le truc. Mais la phrase qui suit déplace un peu cette affaire. Quelle comparaison d'elle à nous dans les instants de la passion ? Bon, donc oui, d'accord, elles sont plus sensibles que nous, etc. Bon, là, on voit arriver le truc. Bon. Mais, voyez la phrase suivante. Mais autant nous le leur cédons quand elles agissent, autant elles restent au-dessous de nous quand elles imitent. C'est-à-dire, elles sont plus fortes pour agir, moins fortes pour imiter. Ce qui veut dire des choses sur les femmes et sur les hommes, sur lesquels on pourrait discuter longuement, mais ce qui veut dire surtout, dans le cas qui nous occupe, quelque chose sur l'action et sur l'imitation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine capacité qui est dans l'action, et l'imitation se décale de ça, s'écarte de ça. Et d'ailleurs, bon, les génies, c'est indiqué dans la phrase suivante, indiqué à nouveau que ce sont des spectateurs. Alors, il y a toute une articulation de ça qui indique que cette dissociation dont je parlais, c'est une dissociation qui écarte l'acteur de l'agissant pur, hein, qui le met du côté de l'imitateur. Voilà. Bon. Alors, il en s'ensuit toute une thématique de la définition même de la vérité. Comme vous savez, la vérité dans ce texte n'est pas la vérité du jeu, mais la vérité d'ailleurs en général, mais en l'occurrence la vérité du jeu n'est pas la conformité à la nature, mais la conformité au modèle. C'est la conformité à l'idéal qui est la vérité. La vérité du jeu, c'est sa capacité de se conformer à l'idéal et pas au modèle. Il y a des textes qui sont d'ailleurs, me semble-t-il, symétriquement opposés à ceux des entretiens, ou en particulier tout ce qui est de l'ordre de la proximité avec le comportement le plus, on pourrait dire, naturel, en l'occurrence, semble vraiment exclu de la capacité de juger, de jouer. Celui qui joue, c'est celui qui se met à l'écart. C'est donc la capacité d'agrandissement qui est la capacité de jouer. Hein. Vous vous souvenez que dans le paradoxe, c'est ce que relevait Eisenstein, dans les entretiens, on disait au contraire qu'il fallait se rapprocher au plus près du comportement le plus, disons, nous dirions peut-être le plus ordinaire, ou le plus naturel. Ici, il s'agit au contraire de s'en écarter par le jeu. Et puis je voudrais donc mentionner encore deux thèmes dans ce petit relevé que je vous propose, beaucoup trop sommaire, on pourrait s'attarder très longuement sur chacun d'entre eux. Bon, le thème qui nous intéresse, c'est un peu une digression, je m'en excuse, spécifiquement pour des raisons de théâtre, le thème de ce que Diderot lui-même appelle la double scène, c'est-à-dire qu'il y a une double scène sur scène, et ce qu'il appelle une scène haute et une scène basse. Vous savez, c'est le cas, c'est le célèbre exemple des deux comédiens qui se détestent et qui jouent un homme et une femme et qui jouent une scène de deux personnes qui s'adorent, et donc qui, en même temps qu'ils disent le texte de ces deux personnes qui s'adorent, qui sont au paroxysme de l'émotion, s'envoient des méchancetés, des brutalités, et même et c'est d'ailleurs pas dans la double scène là, mais l'anecdote est tout à fait à l'extrême fin, la célèbre anecdote c'est tout à fait à l'extrême fin, page 147 de notre édition, c'est la femme qui se pâme pendant que l'acteur l'embrasse et qui lui dit en sous-texte: ah Pio, que tu pues. Donc voilà, ça c'est la double scène, scène haute et scène basse, à tout point de vue d'ailleurs, haute et basse. Haute et basse au point de vue stylistique, haute et basse au point de vue tragédie-comédie, haute et basse au point de vue du rapport au lyrisme. Et la double scène, c'est... Il y a deux scènes sur scène. Hein. Et donc, l'acteur est acteur en tant qu'il est apte à cette duplicité de la scène sur la scène. Et puis, alors, le dernier thème que je voudrais pointer maintenant, parce que ça me paraît très important pour une des questions qui nous a occupées, la question de l'éducation, c'est que, alors, là aussi, les citations sont innombrables. Elles ont été beaucoup commentées par la Foulabart et par beaucoup d'autres. C'est que la capacité à être comédien, c'est la capacité à être rien. Hein? C'est une chose très, très connue. Le comédien, c'est littéralement l'homme sans caractère. Hein? Un homme sans qualité, mais c'est l'homme sans caractère. C'est page 127 dans mon l'homme né sans caractère ou l'homme qui s'en dépouille. Hein? Le comédien, c'est l'homme sans caractère. C'est celui qui doit... Alors, à un moment donné, il conteste l'idée reçue, dit-il, selon laquelle c'est parce qu'il joue toutes sortes de choses que les comédiens seraient en quelque sorte peu à peu dépouillés de toute singularité de personnalité, que ça deviendrait des personnalités molles et veules. Il dit non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'ils jouent tout ça qu'ils deviennent des personnalités faibles. C'est parce que ce sont des personnalités capables de n'être rien qu'ils peuvent jouer tout. Hein. Et donc, il y a une espèce d'accession par le jeu au fait de se démunir des marques des caractères, du caractère, au fait de se désingulariser presque. Hein, alors je dis que ça rejoint notre affaire d'éducation, parce que si on éduque les gens à jouer, on les éduque aussi à ça. On les éduque à perdre les traits de leur singularité pour être capables éventuellement d'accéder à une ouverture, à une universalité plus grande. Voilà. Ça, ce sont les thématiques que je voulais relever rapidement, très rapidement, dans le texte. Enfin, quelques thématiques qui, me semble-t-il, se coordonnent aux questions que nous avons soulevées. Si nous faisons ensemble, nous mettons ensemble un petit peu ces éléments de lecture du texte, je voudrais vous dire que, de mon côté, ça soulève des questions extrêmement profondes et d'ailleurs qui ne sont absolument pas résolues. Et que je voudrais que nous discutions un peu, si vous le voulez bien, et qu'on pourrait mettre toutes sous l'emblème du rapport à Kant. Comment dire ça? Là encore, ce sont des questions que je formule très rapidement pour que nous les discutions ensemble. Première de ces questions serait celle-ci. Si je comprends bien, dans ce texte de Diderot, l'acteur joue en tant qu'il est capable de juger, mais cette faculté de juger n'est pas exactement la faculté de juger kantienne, pas la faculté de juger esthétique. Ou alors elle l'est et elle ne l'est pas simultanément. Elle l'est et elle ne l'est pas. C'est là que j'aimerais bien que nous discutions ce point. Parce que le jugement qu'il s'agit chez Diderot est-il un jugement de goût? Je ne le vois pas, moi, comme jugement de goût. À aucun moment donné, je ne le vois comme jugement de goût. On pourrait articuler ça, le jugement, je veux dire, de l'acteur sur scène. Je ne le vois pas, je ne vois pas qu'on puisse le penser ou le comprendre comme un jugement de goût, au sens kantien strict. Alors ça, moi j'aimerais bien que nous voyons ça, que vous me disiez si cette affaire... Comment est-ce que je voudrais vous dire ça? Je voudrais le dire de plusieurs façons. D'une part, comme vous savez, le jugement de goût, chez Kant, c'est le jugement qu'il prononce sur la beauté, hein, c'est son objet. Hein. La célèbre formule... à la fin du paragraphe 5 de la faculté de juger, c'est le goût et la faculté de juger et d'apprécier un objet ou un mode de représentation par une satisfaction ou un déplaisir indépendamment de tout intérêt, on appelle beau l'objet d'une telle satisfaction. Je ne suis pas sûr que l'acteur, tel que Diderot le voit, prononce jamais quoi que ce soit sur la beauté. C'est une question que je pose aux Diderotiens, aux Diderotiennes ici présentes. Je ne suis pas sûr qu'ils disent quoi que ce soit sur quant à la beauté. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit jamais question de sa satisfaction ou son déplaisir. On verra, hein, c'est une question que je vous adresse. Voilà. Première question. Mais peut-être que je me trompe. Ou bien pour le dire en d'autres termes, il me semble que la faculté de juger, que Diderot appelle bien ainsi, hein, l'exercice du jugement est en quelque sorte encore trop classique par rapport au modèle kantien. Il est encore pré-kantien. S'il y a un jugement de l'acteur, si l'acteur juge quoi que ce soit, il me semble que son jugement est pré-kantien, c'est-à-dire qu'il juge sur une conformité qui n'est pas la conformité à un réel, mais qui est conformité à un idéal. Mais il juge quand même de cette conformité. Hein. Donc, est-ce que... Voilà. Et puis enfin, troisième critère qui ferait que ce jugement n'est pas strictement conscient, ou alors qu'il l'est, qu'il ne l'est pas en même temps, c'est ce que nous avons dit depuis le début, c'est ce que nous avons dit depuis la dernière fois, c'est qu'il a une implication pratique permanente, alors que le jugement conscient, nous l'avons dit à la première séance, est un jugement qui se retire de toute implication pratique. Alors là, c'est compliqué, parce qu'il le fait, il ne le fait pas en même temps. Il le fait en tant qu'il se rend spectateur, donc dans le temps où il est spectateur, il se retire l'intrication pratique, mais en même temps il s'y réengage sans cesse. Alors je vais vous dire ce que j'ai dans la tête pour que ce soit clair, hein, pour que abattre nos cartes, en tout cas les miennes. Enfin, je vais dire ce que j'ai dans la tête. J'ai l'impression que l'acteur diderotien qui émerge en général et qui émerge en particulier comme diderotien à peu près au même moment, un peu avant, pendant, etc., que la faculté de juger ancienne, fait à la fois une espèce de pas en arrière et peut-être de pas en avant par rapport à cette faculté de juger. Et là, je rejoins directement les interrogations et en particulier les choses que tu as dites quand tu es venu au GRT. Pas en arrière, ça serait en quelque sorte se réserver par rapport à la constitution du modèle esthétique moderne. Modèle que celui qui se rétracte de l'action et qui juge de la beauté indépendamment de tout intérêt, comme ça, voilà, modèle du pur spectateur qui est là et qui dit c'est beau. Donc, il ferait une espèce de pas en arrière, il y a une espèce de condition pré-esthétique de l'acteur, diderotien, je parle d'acteur diderotien. Et puis pas en avant. Alors, je dis encore un mot sur la condition pré-esthétique. Vous savez que le livre ferraille contre Sainte-Albine, hein, contre un texte écrit de Sainte-Albine qui s'appelle Le Comédien, de Raymond de Sainte-Albine. Certains connaissent très bien ça ici, mais enfin, on y revient si vous voulez dans la discussion. Je ne fais que lancer ici des thèmes. Ce livre ferraille contre le livre de Sainte-Albine, qui est un livre qui s'appelle Le Paradoxe, comme l'a très bien montré Patrick Thor. Le paradoxe a deux sources. Les deux sources sont le livre de Riccoboni et le livre de Sainte-Albine. Le livre de Riccoboni, qui est un livre d'acteur, le livre de Sainte-Albine, qui est ce que Diderot appelle le livre d'un médiocre littérateur, médiocre littérateur et un grand comédien, dit-il. Et le coup de génie, me semble-t-il, de Diderot, c'est d'avoir mis en dialogue, dramatisé cette confrontation avec les deux protagonistes, le premier et le deuxième. Le premier, c'est une espèce d'héritier de Riccoboni, le deuxième, c'est un héritier de Sainte-Albine. Or, la position, il caractérise la position de Riccoboni comme une position d'acteur, et la position de Sainte-Albine comme une position de spectateur. C'est ce que d'ailleurs Riccoboni lui-même avait dit, en contestant le livre de Sainte-Albine, avait dit « on ne sait ces banalités-là que du parterre ». Que dans la salle. C'est manifestement quelqu'un qui n'est jamais monté sur scène. Donc, je veux dire que, par là, qu'en un certain sens, le livre de Sainte-Albine, et sa postérité l'a bien montré, est plus, lui, quelque chose qui annonce la position d'une esthétique du théâtre, au sens, c'est-à-dire d'un théâtre pensé à partir de la position de spectateur, comme tel. Hein. Et c'est bien ce que, en un certain sens, Diderot lui reproche. Donc, ce que je veux dire, donc, par là, c'est que ce que j'appelle le pas en arrière par rapport à la constitution de l'esthétique, que Diderot se mettrait un peu, se tiendrait, se réserverait en amont. L'acteur diderotien ne participe pas complètement de ce mouvement de la constitution de l'esthétique. C'est une hypothèse hein, que je vous soumets, hein, c'est pas du tout certain, c'est une proposition. Mais du coup, faisant ce pas en arrière, il fait peut-être un pas en avant, en inversant la célèbre formule de Lénine. C'est-à-dire, il fait un pas en arrière et deux pas en avant, lui, pour le coup. C'est-à-dire que, du coup, peut-être en étant en arrière de l'époque de l'esthétique, il nous aide à penser quelque chose qui lui succède. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que nous sommes peut-être à l'époque où... quelque chose de cette idée romantique, esthétique, l'esthétique selon comment on l'appelle, l'artiste moderne s'épuise, et que c'est peut-être parce que cette idée romantique de l'artiste moderne s'épuise que la figure de l'acteur prend de plus en plus de, prend de plus en plus d'importance et de place. Vous savez, c'est un thème qui me tient à cœur. Peut-être que le modèle de l'acteur est un modèle qui peut, qui en effet, historiquement, vient après. Je pourrais articuler ça, je pourrais vous le montrer si vous voulez. Vient après le modèle de l'artiste romantique. Peut-être que nous sommes dans une époque où la figure de l'acteur nous dit plus que la figure de l'artiste romantique. Nous sommes dans l'époque d'une espèce de plasticité, c'est-à-dire de n'être rien pour être tout, hein, de capacité d'évacuation, d'épuisement pour s'ouvrir à toutes sortes de possibilités. Alors si c'est le cas, le modèle que je vous propose, s'il y a ce pas en arrière et ce pas en avant, ça expliquerait ceci qui m'a toujours beaucoup intrigué. Ça expliquerait la grande ligne d'Hydro-Brecht. Ça expliquerait que, si vous voulez, le diderotisme ou le brechtisme, qui en est l'héritier direct à mon avis, a toujours fonctionné un petit peu comme alternative à l'esthétique au sein même de l'époque de l'esthétique. C'est-à-dire que c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon de voir la vie. Brecht, reprenant l'héritage de Diderot, a peut-être traversé la modernité en s'en écartant. Je veux dire, Brecht n'est pas tout à fait un moderne. Brecht n'est pas tout à fait un artiste. Peut-être beaucoup plus et beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire autre chose, quoi. Autre chose est plus que la figure du grand artiste romantique. Il y a quelque chose, il y a une espèce d'écart, comme ça, entre Diderot et Brecht, par rapport à ce qui s'annonce, qui s'ouvre avec Kant, qui se poursuivra avec les grands romantiques, qui s'installera, voilà, et que cette lignée, alors faut peut-être dire Diderot, Brecht, un certain Benjamin, pas tous, mais un certain Benjamin, ça, il y a peut-être une alternative avec la grande figure romantique, post-romantique de l'art, voilà. C'est peut-être pourquoi moi j'ai toujours eu l'impression de sentir cet écart, cet écart, c'est-à-dire cette façon de se mettre en dissidence par rapport au statut de l'art, voilà, par rapport au grand statut romantique ou post-romantique de l'art. Il semblerait que Diderot ouvre une espèce de lignée alternative, quoi, par rapport au statut romantique de l'art, et qu'on pourrait peut-être expliquer par le fait qu'il n'entre pas tout à fait, que l'acteur diderotien n'entre pas tout à fait dans le. C'est pour ça qu'on peut dire, répondre à notre question, est-ce qu'il y a une faculté de juger de l'acteur? Sans doute. Je répondrai ça, moi, maintenant, aujourd'hui, sans doute. Mais ce n'est pas une faculté de juger au sens strictement esthétique du mot. C'est peut-être une faculté de juger post-esthétique, si vous aimez les postes, si vous aimez les ou bien para-esthétique, ou bien... Vous voyez, c'est quelque chose qui se joue plus d'une autre articulation entre la raison pratique et la faculté de juger. Voilà. Une espèce d'autre articulation entre la raison pratique, la praxis de l'acteur et la faculté de juger esthétique. Bon, c'est une espèce de grande rêverie spéculative que je vous livre là, hein, et que je soumets à vos critiques féroces, hein, aussi bien du point de vue diderotien que du point de vue kantien. Hein, je ne sais pas. Mais je vous dis l'impulsion qui me guide là. C'est une impulsion, c'est une espèce de petite intuition. C'est cette question de cet écart, voilà. À la fois la contemporanéité Diderot-Kant est incroyablement révélatrice, et en même temps elle est révélatrice d'une espèce de hiatus, de faille comme ça, qui s'avance. Voilà. Ce sont les questions que je vous soumets. Alors, on peut les prendre dans l'ordre que vous voulez, par Diderot, peut-être pour commencer, voilà, comme vous voulez, quoi. Enfin, comme ça vous convient.
Ce que vous avez dit me paraît très très juste. Bien sûr, il y a tellement de choses à dire. Enfin, c'est une question qui m'agite depuis très longtemps et je n'ai jamais essayé de formuler de manière rigoureuse. Mais il y a quelque chose tout d'abord qui est très important, c'est que il n'y a pas d'acteur chez Kant, en fait. Dans la critique de juger, de la faculté de juger, il y a tous les autres artistes qui arrivent, le poète, le peintre, le sculpteur, etc. Mais non pas l'acteur. Il n'est pas là. Et l'autre dimension de cela, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, la capacité de juger, c'est quelque chose qui, et quand on le dit tout simplement, tout le monde a le droit à son jugement. Et ça ne s'universalise pas. J'ai le droit de dire, cela me paraît beau, et de vous demander si vous êtes d'accord, mais il n'y a aucune manière dans laquelle que cela pourrait devenir universel. Il n'y a aucune manière, il n'y a aucune manière, excusez-moi, que cela pourrait devenir des règles. Donc. Mais dans cela, justement, c'est la manière dans laquelle il rejoint Diderot. Mais il y a aussi cette autre dimension, c'est que pour Diderot, l'acteur, c'est vraiment celui qui tient place de du génie. C'est lui qui est le génie chez Kant. Donc il y a cette manière de revenir là-dessus. Le génie, c'est celui qui donne la règle, mais c'est aussi le fait que la règle qu'il donne, c'est qu'il n'a pas de règle, justement, chez Diderot. Parce que l'acteur imite le rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas le rien, il ne présente pas le rien, mais il l'imite. Et donc c'est ça, c'est cette manière de se rejoindre en ne se rejoignant pas, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, qui me paraît très très intéressant. Parce que, en fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir une esthétique, quoi que ça soit. Soit chez Kant, parce qu'il ruine toutes les règles dans un geste tout simple, c'est que tout le monde a le droit d'avoir d'aimer ce qu'il aime. Et Diderot le fait de la même manière. Il n'y a pas de jugement comme tel dans les deux, dans un sens, parce que finalement, quand il dit le jugement esthétique, c'est ce qui arrive entre, je pense à ces textes en anglais, donc les termes sont charm et utility, je crois, mais je me souviens plus. Mais donc, cela me pourrait paraître avoir du charme, ça peut me donner un plaisir, mais ce n'est pas un plaisir sans intérêt, ou bien cela pourrait me paraître bien, dans le sens que c'est utile. Bien que chez Diderot, l'utilité est toujours là, même pour l'acteur. Donc je ne sais pas, c'est une manière de parcourir un peu ce que vous avez dit.
Sophie, je vous sentais à plusieurs reprises par rapport à Diderot, pour leur apporter des précisions.
Non, j'étais plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a un passage, il y a une anecdote sur laquelle il faudrait peut-être essayer la théorie là, parce que c'est l'anecdote sur Sedaine. Voilà, c'est page 71. Ouais, c'est ça. Donc Diderot va assister à la représentation du philosophe sans le savoir de Sedaine. Ça marche pas à la première représentation. Il est déçu, il est désespéré. La deuxième, ça fonctionne. Grand succès. Donc il cherche Sedaine dans tout Paris. Il court après pour le féliciter et il arrive devant lui. Je vais partout. Je l'aborde. Je jette mes bras autour de son cou, la voix me manque et les larmes me coulent le long des joues. Voilà l'homme sensible et médiocre. Sedaine, immobile et froid, me regarde et me dit « Ah, monsieur Diderot, que vous êtes beau. Voilà l'observateur et l'homme de génie. » Donc là, il y a un jugement de goût, mais c'est curieux parce que c'est quand même le jugement du... L'objet qui suscite ce jugement, c'est le spectateur. Donc Et moi, je lisais le paradoxe comme... une défense de la faculté de juger du côté de l'acteur, mais il y a une faculté de juger du côté de l'acteur que parce que on doit faire un effet particulier sur le spectateur. Et tout ce qui est dit, en particulier de la représentation des passions dans le paradoxe, il me semblait que l'acteur devait jouer en spectateur parce que les passions qu'il devait représenter devaient être des passions agréables pour le spectateur et donc des passions médiatisées, en fait. Et donc, je crois que ça a un lien aussi avec cette anecdote. On n'est plus vraiment dans le même.
Un mot sur le...
Il faudrait trouver quelques citations précises de Kant pour contraposer. Parce qu'au fond, il ne parle pas de la même chose d'abord. Il faut dire ça. Le c'est beau n'est pas l'affaire de Diderot dans cette histoire théâtrale, plutôt si c'est conforme à un type...
le goût kantien n'est pas d'abord pris dans cette affaire. Hein. Il semble qu'il faudrait, parce que tu ramènes Kant, c'est évidemment très important, mais il faudrait opposer des passages. Vous avez dit tout à l'heure une chose étonnante, l'acteur n'existe pas pour Kant, évidemment, mais l'acteur n'est rien. Pourquoi dans la vieille tradition, c'est pas le vieil sculpteur, mais l'acteur, c'est un type qui est au service d'un texte, au service de, qui n'est évidemment pas dans le coup. Puis alors, vous avez lâché universalité, la formule de Kant, c'est universalité sans concept. C'est-à-dire que c'est universalité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les formules kantiennes sont inutiles parce qu'au fond, c'est l'impossible. C'est-à-dire finalité sans fin, universalité sans concept. C'est-à-dire, au fond, c'est des paradoxes puissants. Enfin,
c'est l'universalité qui ne s'impose pas.
Ouais.
C'est ça, en tant que règle esthétique.
Et qui est requise, néanmoins.
Oui.
Elle est requise. Parce que sinon, c'est pas un chemin. C'est précisément la différence avec l'inverse. S'il n'y a pas de réquisition d'universalité par défaut, il n'y a pas de jugement de goût. Donc, c'est pas du tout un jugement qui est comparable au jugement de l'agréable. C'est sur un autre plan, tout autre plan.
Donc, parce qu'avec l'affaire du jugement, c'est très difficile pour nous, puisqu'en même temps, le jugement, c'est la justice.
Il faut partager, là, c'est le jugement de Salomon, on dit dans les manières de parler. Alors, la distance, tout ça va de soi, entre les parties qui s'opposent passionnellement et le juge en arrière. Donc, mais là, tu n'as pas parlé de l'écho de la justice dans le jugement dont il est question ici. C'est tellement complexe, ouais. C'est un peu comme quand je me disais parfois en lisant, il y a un texte de Deleuze qui est très violent contre le jugement, je suis obligé, mais c'est parce qu'on a l'impression, enfin à ce moment-là, je me rappelle très bien, qu'il parle contre la justice, le jugement de justice, la sentence, mais pas forcément contre la faculté de juger au sens kantien, etc.
Le point que tu dis là, premièrement, la distinction du jugement, de ce dont il s'agit, dans Kant et de ce dont il s'agit dans le paradoxe. C'est justement exactement de ça que je voudrais parler. C'est-à-dire que si on dit, en brutalisant les choses et en les simplifiant à outrance, que une des premières caractéristiques de la faculté de juger, c'est par exemple le fait qu'elle ne... La faculté de juger esthétique, la faculté de juger kantienne ici, qu'elle ne connaît pas. Ce n'est pas un exercice, une capacité de connaître. Ça va déterminer tout de même tout un statut de l'art. Pas parce que Kant aurait créé l'art moderne, c'est pas ça, mais je veux dire, l'époque qui s'ouvre, et dont Kant est le témoin et à la fois le formalisateur le plus génial, est une époque où l'art se considère comme non connaissant. Et il ne peut rien dire, il n'a pas à dire, si on s'en réfère à ce modèle, sauf erreur de ma part, il n'a pas à produire un jugement de connaissance sur la réalité du monde et des choses. Ça conditionne tout un devenir, comme ça, de l'art. D'ailleurs, contre lequel, toi aussi, dans tes affaires de jugement, tu te démarques de ça aujourd'hui, puisqu'au fond, ta référence, pourquoi tu en appelles au jugement, tu vois, beaucoup, dans tes derniers écrits, c'est parce qu'au fond, tu veux pour l'artiste, et par exemple le poète, l'exercice d'un jugement, c'est-à-dire de quelque chose, de dire, de produire des propositions, ce qui te différencie par exemple de Badiou, c'est-à-dire le caractère de propositionnel, c'est-à-dire on dit quelque chose et on formule, voilà. Bon. Parce que tout de même, ce que Kant ouvre comme époque, c'est l'époque où l'art, ce dont Kant témoigne, ce que Kant formalise, c'est une époque où l'art va peut-être de plus en plus, jusqu'à l'extrême dans l'hypermodernité, se rétracter de la capacité de dire quelque chose de produire une connaissance sur le monde. Il semble qu'on est tous en dissidence par rapport à ça maintenant. Tous, chacun à sa façon. On est tous là en dissidence par rapport à ça. Ce que je veux dire, je finis de dire, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que la figure de l'acteur telle que Diderot la pense ou la théorise, elle n'est pas déjà au départ, c'est l'écart que tu viens de dire, est-ce qu'elle n'est pas dans cette même époque, mais en même temps comme écart avec ça. Bernard, qu'est-ce que tu veux dire ?
Moi, en t'écoutant, je repensais à une chose dont on a parlé de l'intelligence ensemble.
Et que, qu'a agité récemment, dans un texte qui n'est pas publié, Jacqueline Lichtenstein, à savoir l'opposition entre le jugement esthétique et le jugement artistique, qui vient de chez Fiedler. Et Fiedler, c'est très intéressant, hein, très très intéressant. Moi, je crois que Diderot, dans ce jugement de l'artiste, effectivement, ne parle pas du beau, mais il parle de la justesse. Parle de la justesse du jeu. Il juge de la justesse. Et là où Kant formalise et pense une faculté de juger synthétique, au sens où on parle de synthèse depuis Aristote, c'est-à-dire comment j'unifie l'univers, sous un concept qui est un concept éventuellement par défaut, mais qui va me faire dire oui, il y a une œuvre, et elle m'affecte. Et elle me synthétise moi-même, d'ailleurs, parce qu'elle me fait être un sujet. Elle m'individue, moi, je dirais, avec Simon. Diderot parle d'une faculté de juger analytique. C'est pas le synthétique qui intéresse Diderot. Le synthétique, c'est le point de vue du spectateur dans la salle, pour le coup. Sur la scène, le point de vue est nécessairement analytique, d'abord parce que je n'ai qu'une vue partielle, de toute façon. Et que ce qui m'intéresse, c'est de découper, c'est de discriminer. Alors moi, je pose, c'est un des enjeux pour moi de ce projet, de faire ce colloque, dont j'espère qu'il va durer plusieurs années au Centre Pompidou, qui s'appelle « Histoire au pluriel de la faculté de juger ». Parfois, j'ai envie d'appeler ça « Petites histoires de la faculté de juger ». Je pose, dans mon propre point de vue, par l'hypothèse, qu'un jugement est toujours dissocié, au sens où tu as parlé de dissociation, à la fois analytique et synthétique, qu'un vrai jugement, c'est-à-dire, ce que c'est un vrai jugement, moi j'appelle vrai jugement un jugement d'amateur. Un vrai jugement est en réalité, non pas un état psychologique ou logique, mais un processus. Et c'est un processus qui ne cesse d'osciller entre le synthétique et l'analytique. C'est très bien montré, pour moi, dans un documentaire, que j'ai cité plusieurs fois d'ailleurs, de Jean-André Fieschi, sur la façon dont travaille Fellini. Et sur la manière dont Fellini passe du plateau à la salle de dérochage. Et où, quand il est en dérochage, il essaye de se mettre dans la position synthétique, c'est-à-dire d'oublier tout l'analytique. Parce que, quand il est sur le plateau, il ne voit que de l'analytique, des grues, des Perchman, il est dans l'obsession de l'analytique, y compris du scénario analytique, parce que le scénario, lui, le voit analytiquement. Mais quand il est en dérochage, c'est-à-dire au moment où il essaye d'imaginer comment on va tourner demain, comment on fait ça dans le montage, etc., il essaye d'oublier tout ça pour se mettre dans le point de vue du spectateur, qui est synthétique. Et en réalité, le travail de l'artiste, qui se dédouble toujours, au sens où tu insistais tout à l'heure, il faut qu'il y ait ce dédoublement. Quand tu disais c'est un artiste, qu'est-ce que fait le peintre? Il recule. À un moment donné, il essaye de se mettre à la synthèse. Bon. Qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous visitons des musées et que nous essayons de nous avancer sur les tableaux, de nous mettre dans l'analyse? Nous n'arrêtons pas de faire des allers et des retours comme ça. Qu'est-ce que fait. Podalides parle de ça dans son bouquin sur. Qu'est-ce que fait Marcel dans la salle aux Français? Il essaye de trouver la bonne position entre je m'approche au maximum et je me recule au maximum. Mais en fait, à un moment donné, il faut qu'il trouve un moyen terme. Moi, je crois que la question du jugement, elle est à la fois, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Jacqueline, mais en même temps, je trouve qu'elle apporte quelque chose d'extrêmement intéressant, elle est à la fois fidlérienne et kantienne, ou diderotienne, dirons-nous plutôt, et kantienne. Elle doit tenir les deux bouts, en réalité. Et j'ajouterai un point qui n'est pas exactement sur ce registre-là, mais en même temps si, et pour proposer une discussion sur la froideur de l'acteur et son caractère machinique, car c'est une machine. Il faut, je veux être une machine, c'est ça que dit l'acteur de Diderot. Moi. Pour moi, c'est une question de grammatisation. Je reviens avec mes petites impressions personnelles. L'analytique est grammatique. Ce que j'appelle grammatisation, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, qui n'est pas de moi, qui est de Sylvain Auroux, mais que j'ai complètement transformé, parce que je ne comprends pas Auroux l'a cantonné dans une analyse de l'histoire des sciences du langage. Moi, je crois que la grammatisation, c'est tout ce qui, c'est une manière de lire Deleuze aussi d'ailleurs, tout ce qui permet de discrétiser des flux. Par exemple, le geste du travailleur sur la machine qu'analyse Adam Smith en 1776 et qui est haché par une machine qui va contraindre ce geste, c'est une grammatisation du corps du travailleur. C'est ce que, après, Simondon va appeler la perte d'individuation du travailleur, et c'est la prolétarisation au sens marxien. Je pense que toute analytique, quelle qu'elle soit, dans toutes les formes, y compris l'analytique transcendantale, suppose une grammatisation. C'est-à-dire une capacité à interrompre le continu et à mettre du discontinu dans ce continu. Donc elle discrétise au sens mathématique du terme. Mais que ça passe par des techniques. Et que dans le cas de l'acteur de Diderot, c'est une technique du corps. C'est-à-dire que l'acteur de Diderot est un corps qui se grammatise. Il faut qu'il devienne une machine d'enregistrement. Il faut qu'il soit capable d'enregistrer et à un moment donné, alors, dans cet enregistrement, de construire ce modèle que la petite, comment elle s'appelle déjà,
Clairon,
va halluciner. Mm-hmm. Parce qu'elle va se faire, finalement, qu'est-ce qu'elle se fabrique ? Elle se produit une espèce de machine de projection. Elle est une espèce de... Elle devient un appareil de projection par la grammatisation. Et elle projette, à un moment donné, un truc dont elle va devenir spectatrice, à quoi elle va s'identifier, et elle va vivre. Et donc, elle va se remettre dans la position synthétique. Après avoir produit la possibilité analytique de cette projection. Donc ça, pour moi, ça appartient à une grammatisation des corps. Voilà. Et je pense que, je m'arrête là-dessus, toute la difficulté, là où Jacqueline Eschenstein a raison, chez Kant, sauf à ce que quelque chose de fondamental m'ait échappé, mais il n'y a pas de variation du goût du jeu, de celui qui juge. C'est-à-dire que il semble que dans l'analyse kantienne du jugement de goût, qui est universel par défaut, je pense que ça c'est fondamental, parce que c'est quand même ce que dit essentiellement Kant, il dit je suis obligé de poser qu'en droit tout le monde devrait juger comme moi, et obligé en même temps de poser qu'en fait personne ne juge comme moi. Exactement. Jamais. Donc c'est cette tension, c'est cet écart qu'il y a entre le fait et le droit. Le défaut, c'est là que réside un universel qui est un universel promis et jamais acquis, je crois. Et qui suppose une pragmatique par ailleurs. Mais, en tout cas, le problème qui se pose pour moi, à partir du moment où Kant n'interroge pas la dimension analytique du jugement, parce qu'elle n'existe pas dans la question pas du tout dans la question de la faculté de juger. Ça ne veut pas dire qu'il ne pose pas des questions de technique, etc. Au contraire, mais il n'interroge pas cette dimension analytique du jugement. Ça évacue premièrement le fait que les œuvres, tout en étant dans cette position du retrait sur laquelle persistait très justement, qui est la position de base, c'est ce que dit aussi Fellini quand il met en retrait, suppose néanmoins, pour qu'on puisse accéder à ce retrait, une fréquentation. C'est-à-dire d'être passé. Dans une pratique, d'avoir été impliqué dans une pratique, d'une manière, pas forcément une pratique de comédien, une pratique de spectateur. Le spectateur a des pratiques. Il achète des notices, il lit des livres. Marcel connaît par cœur la tirade de Phèdre, et c'est parce qu'il a cette pratique de lecteur qu'il est un spectateur qui peut se retirer. Sinon, il ne pourrait pas. Bon. Donc, c'est une erreur de croire que le retrait est absolu. Le retrait n'est possible que si je me suis impliqué. Il faut m'être impliqué pour pouvoir me retirer. Et cette implication n'est pas forcément, évidemment, une implication d'artiste. C'est une implication, c'est là où je voulais en venir, d'amateur. Et là où, ça manque chez Kant, à mon avis, gravement. Et ça fait aussi que chez Kant, on ne peut pas imaginer, en tout cas moi je n'ai pas vu comment c'est imaginable, que le jugement puisse changer. Alors mon expérience d'amateur, car je suis un amateur, je ne suis pas un artiste, mais je suis un amateur, c'est que mes goûts changent. Et qu'ils sont d'autant plus universalisables par défaut qu'ils changent. Et je fais d'autant plus l'expérience du défaut de l'universel et de la nécessité de l'universaliser, que mes goûts changent.
Je crois que Kant serait d'accord avec ça. C'est ça.
Peut-être.
Parce que, en fait, ce qui prend toujours, c'est la capacité de dire à ce moment, je trouve ça beau, sans aucun raisonnement derrière, et de demander à quelqu'un d'autre d'être d'accord avec cela. Donc c'est une sorte d'auto-présentation, subjectivation qui est absolue dans ce sens. Et ce que vous avez dit me fait penser qu'il y a une manière dans laquelle Diderot et Kant se rejoignent, c'est que chez tous les deux, le jugement, c'est une manière de défaire ce qui vient avant. Il y a cette dimension de ce texte qu'il y a. Ce que fait l'acteur, le comédien, est toujours par rapport à un prétexte. En fait, et le bon jugement, c'est une manière de défaire. Parce qu'il y a toute cette dimension. Au début du texte, il y a toute cette parole sur la différence entre les interprétations anglaises et françaises d'un même texte, qui est une manière de signaler, à mon avis, que le jugement, c'est une manière de défaire, en fait, ce qui était avant, soit dans la tête du spectateur, c'est-à-dire le spectateur a une idée de ce personnage qu'il va voir, mais en fait, le bon acteur, c'est ce côté analytique, est justement d'analyser ce que pense déjà le spectateur et de le réinventer dans ce sens, de réécrire.
Je voudrais dire un truc, parce que vous allez voir. Je voudrais dire un truc pour durcir le problème. Parce que cette séance se déroule très différemment des précédentes, mais c'est bien aussi, puisque les précédentes étaient plus comme ça. Et celle-ci, là, on cherche quelque chose qui est plus esthétique. Hein, mais c'est un peu aussi parce que on n'a pas d'invité particulier, qu'on tétise, quoi. Donc c'est. Et dans la thèse, moi, je crois qu'il y a un problème que je voudrais durcir. C'est ma façon, je voudrais durcir le problème. C'est-à-dire le dissensus. Je voudrais revenir sur l'exemple de Fellini pour dire qu'il y a un problème. Et il y a un problème. Voilà. Bon, moi j'entends très très bien la façon dont tu formules et tu exprimes, Bernard, par exemple l'analytique sur le plateau du tournage et le synthétique dans la salle de dérochage. Il se trouve néanmoins que dans une certaine vision des choses, que je ne veux pas caractériser pour l'instant, mais que chacun reconnaîtra, je ne vais pas forcément y mettre des noms, mais enfin chacun reconnaîtra, c'est quand même la salle de dérochage qui a le dernier mot. Et au fond, si tu veux, le tournage à valeur d'expérience comme ça, tu vois, et au fond la synthèse est l'acte qui est le plus qui est un peu l'acte de repos, l'acte final, etc. Je pense pas que c'est d'ailleurs ce que tu dis, parce que toi tu parles de processus, hein, tu parles de mouvement et de passage sans cesse de l'un à l'autre, mais néanmoins je dis dans le choix des termes, la synthèse, c'est quand même quelque chose qui à un moment donné est supposé conclusif, tu vois, elle conclut, capacité de conclure. Or dans le modèle de l'acteur, ce serait le plateau qui aurait le dernier mot. Hein. Il faudrait mettre la figure de quelque chose où l'expérience, c'est pas transitoire pour aller vers la synthèse qui est là dans l'élément de l'observation. Hein. À la limite, on pourrait renverser le schéma. Si tu vois, c'est l'observation qui est presque transitoire. Les synthèses provisoires pourraient être toujours dans le champ de l'expérience. Tu vois, pourraient être toujours sur le plateau de l'expérience. Que ce soit le plateau du tournage ou le plateau du jeu. Je veux dire par là que moi je crois que dans la faveur présente de la figure de l'acteur, il se joue quelque chose d'une, comme on a pu parler, d'une dialectique sans relève ou d'une, tu vois, d'une finalité sans fin. Là il se joue quelque chose, non pas d'une expérience sans synthèse, mais d'une expérience sans synthèse conclusive, tu vois, c'est-à-dire d'une expérience dont le lieu c'est le plateau. C'est pour ça que nous sommes en fait dans la figure d'un théâtre sans spectateur. Non pas sans spectateur, on n'arrête pas de dire que le spectateur, il y en a, y compris sur le plateau. On vient de le dire là. Hein. Mais quand même, dont le spectateur n'est pas la raison dernière. Tu vois, on ne dit pas le dernier mot. C'est deux modèles de. À un moment donné, Pierre Alféri avait produit un texte inédit à ce jour, magnifique, où il opposait une perspective un peu post-merleau-poncienne. L'espace contemplé et l'espace parcouru. Hein. Et tu vois, l'espace contemplé, l'espace parcouru. Et il problématisait une espèce de théorie de l'expérience dans l'espace parcouru qui ne viendrait jamais se résoudre dans une théorie de l'espace contemplé. On est toujours dans un espace parcouru. On est toujours sur scène, on est toujours sur le plateau. Alors, je voudrais simplement dire deux choses. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer
la valeur discriminante, pour le coup, la valeur polémique, la valeur de choix, enfin la valeur de critique, de décision de cette affaire, quoi. Bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec toi pour dire que je ne suis pas du tout pour l'abolition de la synthèse ou l'abolition des spectateurs, ou tu vois, ou une espèce de pan-praxis, tu vois, pas du tout, du tout, du tout, en aucune façon. Mais je crois qu'on est quand même dans un temps où le lieu de la pratique dont il s'agit, c'est une pratique qui est, on va dire comme ça pour l'instant, sur scène, si tu veux, hein. Et d'ailleurs, dans le mot amateur, il y a une ambiguïté que tu connais parfaitement, mais que je relève, néanmoins ici, parce que je crois qu'elle est au centre de notre affaire. Il y a l'amateur d'art, hein, l'amateur, celui qui tu vois, bon, voilà, l'amateur de théâtre, l'amateur de machin. C'est un sens du mot amateur, alors qu'il serait plutôt du côté de la synthèse conclusive. Et puis il y a l'acteur amateur. Il y a l'amateur, au sens les acteurs amateurs qui sont sur scène, tu vois, c'est-à-dire et qui sont, tu vois, simplement amateurs dans la mesure où ils sont pas professionnels, tu vois, mais voilà. Donc c'est bon, tu sais très bien ça. Alors je vais simplement dire une chose sur le paradoxe et que je trouve et ça va me permettre de revenir à l'affaire du un monsieur Diderot que vous êtes beau, parce que j'adore ce passage. C'est que il y a un coup génial dans le paradoxe, un coup de génie à mon avis. Si on dit qu'il n'y a pas de point de vue de l'espace contemplé, de l'espace du spectateur conclusif, qui donne la synthèse de la chose, on va dire en un certain sens, eh bien, la stratégie discursive du paradoxe, qui consiste à mettre en scène la figure de l'auteur, y compris Monsieur Diderot, à Monsieur Diderot que vous êtes, dans le texte. C'est-à-dire, Monsieur Diderot, le mot Diderot apparaît dans le paradoxe, parce que un des personnages appelle l'autre Monsieur Diderot. Enfin, cite quelqu'un qui dit « appelle l'autre Monsieur Diderot ». Et c'est le moment pour moi de dire, sur cet aspect, cette valeur complètement biographique du paradoxe, autobiographique du paradoxe, que autant dans les deux personnages, le premier est censé développer la thèse de Diderot, autant Diderot dit, là, vous le savez ça très bien, qu'en fait, le second, c'est lui. Parce qu'en fait, lui, il est le plus sensible de tous les sensibles. Il dit, s'il y a un pleureur parmi les pleureurs, s'il y a un type qui s'effondre en larmes, ça, c'est moi. Il le dit très précisément. J'ai les références, si certains les connaissent très précisément. Mais il dit, en fait, vous savez, c'est de moi que je... Donc, tu vois, et je trouve ça absolument génial. Parce que je trouve extraordinaire que... Il n'y a pas de Diderot qui est là, tu veux, pour commander, là, ni même qui prendrait un porte-parole, mais Diderot, il est sur scène, en quelque sorte, il est dans le dialogue. L'expérience, elle est dans la mise en jeu, un peu comme Cantor sur la scène, un peu comme Woody Allen dans ses films, un peu comme Fellini, parce que ce qui sauve Fellini de ça, c'est quand il se met à jouer à un moment donné, assez tard d'ailleurs, hein. Il se met à aller sur le plateau, et la figure de Fellini, c'est pas seulement la figure du monteur dans la salle des rushs, c'est celui qu'on voit aussi avec son petit côté, tu vois, voilà, avec sa femme et tout ça, bon, tu vois. Et donc il y a un côté, il y a pas de dernier mot dans la salle, voilà ce que je veux dire, tu vois, je crois qu'il ne faut pas émousser le tranchant de cette composition qui est une composition compliquée, tu vois. Je t'en prie, bien sûr. Non seulement je permets, mais je provoque en un certain sens.
Alors, la synthèse dont je parle n'est pas du tout égoïste.
Et elle ne vient pas du tout à la fin. Elle n'est pas conclusive. Et je dirais que pour ma part, par exemple, moi je suis un amateur déchiré. C'est-à-dire que je suis sans cesse, au moment où je suis dans la synthèse, je voudrais passer dans l'analyse. Et quand je suis dans l'analyse, je voudrais passer dans la synthèse. C'est que je ne suis jamais à ma place. Et c'est ce circuit qui m'excite, qui crée mon désir, finalement. Tu vois, c'est cette inadéquation à moi-même permanente qui fait que l'œuvre se transforme tout le temps, et que je relis, et que, comme tu disais, j'ai lu je ne sais pas combien de fois ce texte, bon, et que le texte, tu as dit tout à fait en commençant, ce texte, à chaque fois que je lis, des nouveaux trucs, c'est cette inadéquation entre toi et toi qui produit ça, aussi. Et donc... En permanence, tu te recules, synthétique, comme l'artiste. Et c'est vrai de l'amateur comme l'artiste. Pour moi, l'amateur, d'ailleurs, est toujours aussi bien un amateur au sens de celui qui fréquente, collectionne, va au théâtre, hein, que celui qui joue au piano, comme Roland Barthes, etc., bon, et qui voudrait se mettre dans la place de l'acteur. On est toujours en train d'osciller entre les deux. Donc, je ne cherche pas du tout à poser, comment dire, une synthèse conclusive. Du tout. C'est précisément d'ailleurs Fellini, c'est ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il essaye d'empêcher le spectateur d'être dans la synthèse. À un moment donné, il lui dit, ah, mais vous voyez là, regardez, c'est un truc. Donc il essaye de les obliger, comme Brecht, à se mettre analytiquement dans la synthèse. Et il lui montre qu'il n'y arrivera jamais. Parce qu'au moment où il lui dit, regardez, il y a une grosse ficelle qui fait bouger l'écharpe du curé, là, c'est quand ils vont chez... sur la montagne, ou sur la colline de Rome ou à Nittenberg. Donc, il y a un curé à un scooter et on montre une grosse ficelle qui fait bouger l'écharpe pour montrer qu'il n'y a pas de vent, tout ça c'est du bidon. Et au moment où il le montre analytiquement, il crée les conditions pour que ça se resynthétise. C'est-à-dire que je suis rappelé par l'histoire. Et ça, je pense que c'est tous les grands les artistes qui font ça d'une certaine manière.
Je n'ai évoqué plusieurs différences entre l'acteur. Je crois qu'il faudrait élargir beaucoup ces différences pour dire des choses très simplement. L'acteur dont parle Diderot, c'est quelqu'un qui obéit à deux choses, qui est au service de deux choses, une œuvre, un texte, et puis appelons ça pour faire vite le naturel ou la nature. Alors l'acteur d'aujourd'hui ne s'occupe plus ni de l'un ni de l'autre. C'est justement service du texte, sacrifice, je ne sais pas quoi, et le service de la recherche pour la servir d'un naturel ou d'une authenticité, complètement disparu. Donc je crois qu'il faut élargir cette différence, non? Et ce qui est, que je viens de dire pour l'acteur, c'est vrai aussi pour l'auteur, pour Diderot, c'est-à-dire il y a une croyance au naturel, il y a un respect de la tradition pour l'œuvre, c'est très. Tu vois ce que je veux dire, hein? L'authenticité. D'ailleurs, au fond, je faisais aussi une autre remarque, vous pardonnez cette généralité énorme, mais je pensais à les comédiens d'aujourd'hui. Je dis, au fond, il y a deux types d'acteurs, quand même, que je vais cliver. Tu as les acteurs, au fond, les acteurs géniaux. On parle de cinéma, les types. Le type Simon, Michel Simon, Jouvet, Denève. C'est-à-dire, quel que soit le rôle, charcutier, policier, je sais pas quoi, ils sont eux-mêmes et ils imitent d'une certaine manière ni le charcutier, on dit ah oui c'est fantastique, et pourtant c'est pas monotone, ça te plaît. Et puis tu as la plupart des comédiens, qu'est-ce qu'ils font? On voit bien ça à la télévision, je pense à ça dans ces publicités où on voit un type qui doit mimer quelque chose que chacun d'entre nous fait aussi bien. Alors il est à la banque, le type plupart là, c'est-à-dire, c'est la mimique pure du plausible. Donc ça fait quand même deux. Entre ça et puis les grands comédiens, il y a une différence aussi abyssale aujourd'hui. Denner, c'est génial, il n'a jamais rien imité dans le genre plausible. Tu comprends, je veux dire. Tant je trouve qu'il faudrait creuser tous ces différents.
Excusez-moi, je voulais vous poser une question et le débat a beaucoup avancé, donc je suis un peu embêtée, mais pour revenir en fait à l'idée de grammatisation, mais ça va peut-être aller dans le sens de ce que vous venez de dire. Moi, je voulais vous demander, vous connaissez tous ces textes de Kant, qu'est-ce qu'on fait du temps? Enfin, l'idée de la répétition, et c'était un peu la référence à Podalides qui nous faisait penser, puis je pensais à la remarque de Vitesse, le célèbre, qui dit que le théâtre, c'est refaire. Il me semble que Diderot pose en fait une vraie question sur l'acteur en tant qu'artiste, hein, puisque en fait le paradoxe, c'est que précisément l'œuvre de l'acteur est une œuvre volatile en quelque sorte. Donc où est l'œuvre de l'acteur au sens où cette œuvre n'existe pas, elle n'est pas posée puisqu'elle est constamment réinvestie. Est-ce que l'idée de Diderot c'était pas d'abolir le risque d'une œuvre qui n'existe pas, justement, en essayant de théoriser qu'elle soit possible, enfin de la faire exister en tant que telle. Quand il parle du modèle, il est à la fois dans l'idée qu'il y a œuvre et qu'on va s'y conformer, qu'on va créer, donc on va abolir en quelque sorte la contingence de limitation et du naturel, enfin qui serait de l'ordre d'une soumission aux événements. Et au contraire, donc, de la poser comme étant un absolu, mais c'est un absolu toujours bancal, puisqu'il faut toujours le réinvestir, toujours le refaire, le grammatiser. Enfin, je trouve que c'est une idée très juste. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de cette dimension de la répétition, enfin, du temps, quoi. Enfin, du, enfin,
la question du temps, c'est deux choses.
Bah oui, justement. Enfin, on répète pas. Enfin, je sais pas. Vraiment, je vous demande. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Est-ce que c'est parce que du coup, l'acteur chez Kant serait absolument du coup. Enfin, est-ce qu'il y aurait un artisan, un art spécifique de l'interprète?
Alors, sur la répétition, un mot. Excusez le côté un peu pesant de ce que je vais dire. Hein. Bon, le dialogue avec la question kantienne du temps par la répétition, par la question de la répétition, c'est ce qui se trouve dans le livre de Deleuze, Différence et répétition, et en particulier dans la préface, qui est une préface sur le théâtre. C'est-à-dire que Deleuze, dans la préface de Différence et répétition, utilise, qu'il abandonnera très vite d'ailleurs, il a utilisé dans deux grands textes, ça et la méthode de dramatisation, qui sont des textes à peu près contemporains. Et il abandonnera très peu après ce modèle. Il utilise le modèle du théâtre, exactement au titre de ce que vous venez de dire, Laura, hein, en tant que ce qui se répète, hein, pour produire une alternative, me semble-t-il, à la vision classique du temps, bon, telle qu'elle est tributaire, partie de Kant, mais plutôt là, du Kant de la raison pure que celui-ci. Ce que je voudrais dire, en m'appuyant sur ce que vous venez de dire, mais toujours pour... Dans le même sens, c'est que vous avez tout à fait raison de parler de l'œuvre. Parce que moi, je crois que ce qui est en question dans l'affaire de l'acteur, c'est la fin de l'œuvre. C'est-à-dire que l'acteur n'a pas d'œuvre. Et je dirais qu'en un certain sens, c'est ce qui fait sa présente actualité. Est-ce que moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que le modèle idéal, c'est une œuvre. L'idéal, c'est je crois que c'est exactement une œuvre, hein. Et vous avez dit d'ailleurs, c'est une œuvre qui se. Ce que je veux dire simplement, je voudrais simplement encore une fois accentuer ceci pour parce que la question qui nous occupe, je la crois très très importante. Enfin, très, en tout cas, c'est pour moi, c'est ce qui m'agite. Pourquoi l'acteur? Enfin, alors Michel, il s'agit pas là simplement de l'acteur d'aujourd'hui. Il s'agit de la figure de l'acteur aujourd'hui. C'est ça qui m'occupe, hein. C'est-à-dire, ou si tu veux, de la faveur de l'acteur d'aujourd'hui, ou bien de la fascination aujourd'hui pour le jeu, ou du désir de jeu en permanence, tu vois, ou de cette frénétique envie de jouer, cette frénétique envie. Ce que je mets en question ici, c'est qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça, même en un certain sens, excusez un peu l'emphase, qu'est-ce que ça annonce, c'est-à-dire qu'est-ce que ça propose cette faveur de l'acteur. Il me semble que ça propose un modèle de l'expérience qui est un modèle où le mouvement dont tu parles est, pour le meilleur ou pour le pire, on pourrait le critiquer, d'ailleurs certains pourraient le critiquer, hein, quand même plutôt avec un centre de gravité qui est sur le plateau. Tu vois, plutôt que dans la salle. C'est ce que je vais essayer de dire. Alors peut-être c'est pas un bien, peut-être on peut dire c'est quelque chose qui doit être remis en question. Mais la faveur de l'acteur, c'est un modèle où l'expérience a son centre de gravité, son point, son espace d'énonciation, et même l'espace du spectateur, il est sur le plateau. Par exemple, on a parlé de le spectateur dans le salon de Diderot, c'est la caméra dont on a parlé la dernière fois chez Eisenstein qui est dans l'espace du jeu. C'est un spectateur qui a une fonction, une place, un moment qui est nécessaire, mais qui est nécessaire dans la mesure où il est mis en jeu sur la scène. C'est pourquoi la salle se vide dans un certain sens dans ce modèle-là. Et moi personnellement, je ne suis pas, comme vous savez, de ceux qui s'en désolent complètement. Je veux dire, c'est pourquoi la salle se vide non pas par simple épuisement, mais elle se vide parce que tout le monde va sur scène, tu vois. Et alors, je me suis fait d'ailleurs prendre à partie récemment sur ce truc-là, dans des petites trucs là. Et donc c'est dire bon, alors il me semble que ça exprime quelque chose de notre rapport contemporain à l'expérience. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense par exemple que il y a un rapport entre ça et une autre idée de l'expérience que je me permets de vous raconter en deux mots. Imaginons, si vous voulez, la fable suivante. Imaginons des époques, hein, qu'on pourrait emblématiser par à la fois des préceptes et les figures. L'époque, on va dire, une certaine époque, c'est une fable, hein, c'est pas du tout réalité historique, une certaine époque, ce serait l'époque une figure du rapport à soi. Une première époque du rapport à soi, plonge au-dedans de toi-même. Va voir ce qu'il en est. Connais-toi toi-même. Hein. Sache ce qu'il y a au fond. Première époque. Figure, le sage. Hein, celui qui est le sage. Le sage est celui qui peut aller se connaître soi-même jusqu'au fond. Deuxième époque, sors ce qui est au fond de toi et mets-le dehors. C'est l'époque de l'expression. Hein. C'est l'époque de l'artiste. Et c'est l'artiste qui prend ce qu'il y a au fond de lui-même et qui le produit comme œuvre. Parce qu'en fait, l'œuvre, c'est ce dedans de l'artiste qui a été mis au dehors, qui a été extériorisé. Et c'est pourquoi l'artiste, dans cette figure que je crois profondément romantique, profondément romaine et profondément moderne, est sacrificielle. C'est-à-dire, tu prends ce que tu as au-dedans de toi et tu t'en prives. Plus tu as d'œuvre, plus tu meurs. Quoi, hein. Tu meurs parce que tu extériorises ce qui était au-dedans de toi et que tu le donnes à voir. Hein. Ça, pour moi, c'est la figure de l'artiste romantique, la figure moderne. Eh bien, il me semble que l'acteur, c'est une autre époque et une autre figure. D'ailleurs, l'acteur, c'est non plus prends ce qu'il y a au-dedans de toi pour le sortir et pour le montrer, mais c'est l'époque du fait varier ce qu'il y a, tu vois. C'est-à-dire l'époque d'une espèce de plasticité, si tu veux, ou l'époque d'une espèce de expérience sur soi. Le mot expérience sur soi est un mot de Sloterdijk. Hein. Plasticité, voyez, Malabou, machin. Tu vois, le côté de la variation. C'est-à-dire, c'est plus je dois me connaître, c'est plus je dois ressortir et projeter au dehors, mais c'est je produis la variation. C'est ça que la figure de l'acteur chez Diderot là, est incroyablement postmoderne en ce sens-là. Elle est incroyablement forte. C'est je dois être rien pour pouvoir être tout. C'est-à-dire, je dois pouvoir annuler au fond les caractères qui sont les miens pour pouvoir me mettre, je ne dis pas que c'est un bien, je dis que c'est une figure. On peut trouver ça dans l'expérience sur soi, la variation, la plasticité. On peut trouver ça dans des rapports au corps aujourd'hui, hein, même dans des formes morbides ou dans des formes hyper dangereuses. On peut trouver des modèles de ça dans la drogue, on peut trouver des modèles de ça dans les autres rapports au corps, l'automutilation, tout ce que vous voulez, hein, et les figures qui vont avec. L'acteur, c'est une espèce de figure, ouverte de ce rapport-là. C'est-à-dire, moi, ce que je suis, me connaître moi-même, je m'en fous. M'exprimer, c'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est jouer. C'est-à-dire, c'est faire varier les figures possibles de ce que je peux être, de ce que je peux donner, tu vois. Et si c'est ça, il s'agit là d'une figure une figure possible, comment tu vas dire, de notre temps, en quelque sorte, qu'on peut considérer comme inquiétant, on peut considérer comme positif, et qui sont l'un et l'autre simultanément, mais qui est, moi j'aimerais bien qu'on voit bien en quel sens elle nous déplace, quoi. Je crois, excusez-moi, monsieur voulait dire quelque chose, je vous en prie.
Oui.
Je vous en prie.
Je me posais une question pour savoir vraiment si il ne fallait pas voir au travers de ce paradoxe sur le comédien la métaphore, une métaphore ou un symbole de la naissance de l'homme révolutionnaire. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que, peut-être pour lier Kant et Diderot, faut-il lire Kant à travers la lecture qu'en fait Hannah Arendt dans la lecture qu'elle fait de la pensée politique, de la troisième critique de Kant, et où Hannah Arendt pose à travers un texte de Kant que je ne connais pas ou très peu, la question de la place du spectateur dans la révolution. Hannah Arendt dit que le révolutionnaire ne pourrait assumer la révolution sans le spectateur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut imaginer que le paradoxe sur le comédien soit effectivement la prise de conscience à la fois d'un universel, d'un homme universel, mais que cet homme universel n'est rien sans la présence de l'autre. C'est pas du spectateur froid et tranquille. Qui doit être lui-même, mais justement, comment faire ce lien entre ce regard et une pensée et une expérience intérieure. Et dans un livre de Michael Fried qui s'appelle La place du spectateur, qui parle très longuement naturellement des salons auxquels Diderot a prêté sa plume, à un moment il parle d'un autoportrait de Diderot. On connaît tous l'autoportrait de Diderot par Van Loo, en fait, qui a illustré la guerre des Michards de mon temps. Hein? Et d'un autre portrait fait par un artiste dont le nom m'échappe, et qui est un portrait de Diderot en chemise, le cheveu en bataille, le regard porté comme ça sur un espace, mais qui n'est pas un horizon bourré de spiritualité, et qui lui paraît être vraiment la figure du philosophe. C'est-à-dire que pour Diderot, le philosophe est quelqu'un de débraillé, et qui, à la limite, non plus dans cette attitude d'être le philosophe, hautain et fort de lui-même, avec tous les attributs, les livres, la bibliothèque et tout, l'encrier, la plume, est quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, prend conscience que la force qui est la sienne, il la puise dans un regard qui, naturellement, échappe, disons, au regard commun, ou au regard, stéréotypé. Il me semble que là, il y a toute une... un agencement intéressant entre ce spectateur-acteur, l'homme révolutionnaire, et puis l'homme débraillé.
Je me disais que peut-être je vais essayer quelque chose. L'acteur de Diderot, ce serait une marionnette qui pense, qui pas seulement un mannequin comme il en parle, pas seulement un automate, pas seulement un acteur qui serait capable de jouer de son corps comme d'un instrument, d'une harpe, etc. Parce qu'auquel cas ce serait seulement un pantin merveilleux, dit-il aussi, mais comme d'un l'acteur modèle, ce serait ça permettrait de traiter l'idée de la beauté, la sculpture, etc., de la répétition, du jeu mécanique, etc. L'acteur idéal, donc, ce serait une marionnette, mais qui pense ? Alors, donc, ce serait peut-être une espèce de synthèse, parce qu'en fait, il garde l'idée de l'acteur, il prône pas, il va pas chercher, il résout pas cette question-là en prônant le jeu idéal de la marionnette comme d'autres. Enfin, mais ce serait peut-être la synthèse du montreur, enfin du manipulateur et du manipulé. Ce serait l'idée de jugement serait permise par la présence du manipulateur qui fondit avec la marionnette exhibée. Enfin, c'est très clair. Mais...
Tu parlais, c'était intéressant, tu faisais une espèce de génétique tout à l'heure de figure un peu à la Nietzsche, comme ça, le sage, l'artiste romantique, le comédien ou l'acteur. Moi j'y crois beaucoup à ça, c'est un peu dans cet esprit-là que je propose de faire un colloque qui s'appelle des histoires de la faculté de l'Université. On est des époques historiques, des stades de la faculté de l'Université. Personnellement, je lis très étroitement à l'histoire de la grammatisation. En même temps, je pense qu'on ne peut faire ça que si on a des histoires de la faculté de juger. C'est-à-dire que si on tient les deux bouts, une variation historique d'une même chose qu'il a, c'est-à-dire la faculté de juger. Et cette faculté de juger qui est transhistorique ou, si on dirait, omnitemporelle, telle qu'elle permet qu'il y ait un enchaînement entre toutes les époques, et que finalement, dans une époque, les autres époques reviennent, se revisitent, etc., etc., et qu'il y a une faculté de juger, au bout du compte, malgré tout, qui fait que, tout en étant poste ou pas poste, moi je n'utilise pas trop de poste, personnellement, c'est pas fort, je peux lire Aristote, je peux, etc., etc. Bon. Une question... J'ai pas eu le temps du tout de relire Bakhtin, ça fait des mois que je veux le faire pour ce séminaire. j'arrive pas à trouver le temps, mais la question que je pose, peut-être pour une autre fois, c'est qu'est-ce qu'on fait de Bakhtine ? Et du carnaval dans cette affaire, et du dialogisme, et tout cela. Parce que, et moi je fais un lien étroit entre Bakhtine et le roi Goura, chez Bakhtine, il y a une espèce de position absolue où il est impossible de ne pas être sur la scène. C'est-à-dire, le public est de toute façon, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou pas, et de près ou de loin, et pas forcément dans la scène, dans le moment du spectacle, mais peut-être avant ou après, et ça renvoie à la politique, donc à votre question sur la révolution. Dans tous les cas, je ne puis être affecté par la scène que parce que j'y suis, d'une manière ou d'une autre. Sinon, elle ne m'affecterait jamais. Elle ne pourrait, je la verrais même pas. À travers cette question de Bakhtine et de le roi Gourand qui dit cette phrase extraordinaire, il faut participer pour tenter. C'est une phrase qui est mal comprise en général, elle est prise pour une espèce de niaiserie, de patronage. Alors que c'est une position anthropologique absolument fondamentale. Absolument fondamentale. Il y a justement cette question de l'agencement entre l'analytique et le synthétique permanent. Au carnaval, et moi j'adore faire des fêtes, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, des bals masqués, des affaires comme ça, on est en permanence en train de se lier entre les deux trucs. On est en train de se regarder, en train de jouer, et d'un seul coup, on n'est plus en train de se regarder, mais on est spectateur, et au moment où on est spectateur, on n'est plus acteur, d'une certaine manière. Alors, moi je crois, je dis ça, c'est une proposition que je fais comme ça, que il y a une histoire du rapport entre l'analytique et le synthétique. Et que ça se réagence au sens de Deleuzien du mot agencement en permanence. Et que les figures dont tu parlais tout à l'heure sont des figures de ces agencements-là. Très typiquement, la philosophie qui est la sagesse est un discours du rapport entre l'analyse et la synthèse. Le plus somptueux par rapport à mon avis, dans cette époque, c'est Aristote. Mais la philosophie ne parle que de ça en permanence. Et les histoires, les stades de la philosophie sont des réagencements de la synthèse et de l'analyse, dont le moment de la Aufhebung, enfin du moment proprement hegelien, qui correspond avec l'époque romantique, précisément. Mais ce n'est qu'un moment. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette question qui est d'une extrêmement grande actualité, y compris politique, parce que la démocratie participative parle aussi de ça. Et ça passe par la technologie. Alors, je m'arrêterai là-dessus. Moi, j'ai soutenu la thèse à l'IRCAM qu'il s'est passé une grande rupture, dont Benjamin parle d'une certaine manière, mais dans d'autres termes que ceux que j'ai employés, très différents, avec ce que j'ai appelé le tournant machinique de la sensibilité. C'est-à-dire que l'appareillage du visible et de l'audible transforme radicalement les rapports de l'analyse et de la synthèse. Mais cet appareillage, il commence il y a plus de 100 ans. C'est Baudelaire. C'est les questions que commence à poser Baudelaire. Et que cette époque se termine. Et que moi, quand j'ai lu tes textes sur « Dans le théâtre est-il nécessaire », c'est depuis ce contexte que je l'ai reçu. Et voilà. Et je pense que nous vivons une nouvelle époque de la généalogie du sensible, de la grammatisation, qui réagence. Et ça, ce qu'Aliri, nous faisons avec... J'aimerais qu'un jour... soit dans ce séminaire, soit dans le colloque qu'on fera à l'étude du séminaire, on a vu Jean-Luc Homoli, Youssef, à parler de leur pratique des lignes de temps. Ils sont des nouveaux appareils analytico-synthétiques. Parce que c'est ça que nous essayons de faire, c'est de faire émerger quelque chose qui serait de l'ordre de cette nouvelle époque où on ne peut être que acteur. Mais il y a toutes sortes de millions d'acteurs, par contre.
Vous avez déjà dit beaucoup de choses que je voulais dire, mais ce que vous avez dit, Denis, ça m'a paru très très juste en tant que manière de découper un peu cette affaire. Mais la question que j'aurais dans ce cas, c'est un peu la suivante, c'est s'il y a d'abord le sage et ensuite l'artiste, la manière dans laquelle vous avez décrit l'acteur contemporain, c'est-à-dire le fait que tout le monde veut devenir acteur, que l'acteur est la modalité dans laquelle on s'agence, n'est-ce pas ? C'est en fait un peu la synthèse des deux. parce que justement c'est la manière dans laquelle on se connaît en tant que personnage technique. C'est la médiatisation, il me semble, dont vous parliez à ce moment. Et là, pour revenir à ça, il me semble qu'il y a quelque chose dans les textes de Diderot et dans la position de Diderot qui s'oppose à cela. Car en fait, c'est la généralisation de la position kantienne, de l'auto-subjectivisation. Excusez-moi, le français parfois m'échappe. Et donc, il y a quelque chose dans le texte Diderot qui ne va pas dans cette direction, qui est aussi, et cela rejoint aussi ce que vous venez de dire, l'époque du roman, justement. Car c'est l'espace romantique du roman où tout le monde devient un personnage. Et c'est ça, c'est de ça que parle Bakhtine. Et c'est en fait, on pourrait décrire l'époque des médias comme l'époque du roman. Il y a quelque chose, c'est une autre discussion, qui va à l'envers de cela. C'est un discours anti-romantique chez Diderot.
La vraiment une séance de très différente. On a fait vraiment de la proposition, on est plus que là. Mais là où je crois que il y a quelque chose de très très juste et très important dans ce que dit Bernard, et que moi qui m'importe beaucoup dans la lecture que je fais de ces textes ces temps-ci, c'est qu'en effet, là où je crois que tu mets vraiment le point sur un truc qui est décisif, c'est le point que Laura d'ailleurs a relevé à l'instant, c'est que dans cette succession des figures, bon, comme ça par exemple, proposé à titre de presque de jeu, il y a une chose qui manque, et qui manque même du point de vue d'une théorie de la scène, c'est l'affaire des dispositifs, des machines, de l'organologie, de la grammatisation, enfin, les machines. La scène, c'est... Maintenant, ça, je crois, par exemple, dans la discussion que nous avons eue, et une discussion que nous avons eue à Troyes avec Jean-Christophe Bailly, qui a donné la matière à un petit volume, paru récemment, je crois que le point qui, maintenant, je pourrais dire, qui me distingue vraiment de ce que disait Jean-Christophe, et qu'il disait très talentueusement et très très bien, c'est que moi je ne pense plus la scène comme un espace d'exposition pure, mais comme un appareil. Il y a vraiment, et ça je te le dois en grande partie, c'est vrai qu'il y a, dans cette histoire que je raconte, il manque une dimension qui est la dimension de l'appareillage, et elle est probablement déterminante. Alors, la question qui maintenant aujourd'hui m'occupe, ce serait de dire, par exemple dans l'appareillage généralisé auquel nous assistons, enfin disséminé, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin, ouvert dans une... Tu vois, dans une nouvelle, quelle est la scène de tout ça? C'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment une affaire qui est très importante. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à durcir un peu l'affaire, de dire, mais c'est dans la salle ou c'est sur scène? Et qu'est-ce qu'on fait? On est assis au fond du fauteuil et on regarde, ou bien on fait et on pratique, tu vois? Et j'ai toujours tendance à dire, il me semble que l'espace de la comparution, l'espace... a de plus en plus tendance à être l'espace de la scène. C'est-à-dire qu'il nous faut, ou alors il nous faut des salles complètement réaménagées, complètement transformées, bouleversées architecturalement, ce que j'ai toujours pensé, j'ai même essayé de faire ça en me faisant... J'ai été battu par les salles, hein, deux fois. J'ai été battu par les murs. Hein. Deux fois, j'ai lancé l'assaut contre les murailles, et deux fois, elles ont gagné. Une fois au TNS et une fois... Les murs ont toujours gagné. Mais bon, je suis pour un bouleversement architectural des salles, vraiment pour un caractère intraitable à ce rapport-là. Mais néanmoins, je pense qu'il faut penser dans quel espace pratique et matériel la question va se poser aujourd'hui. Parce que je crois sincèrement, en l'éclairant par le problème de l'appareillage, et en la transformant par le problème de l'appareillage, je crois vraiment que la question de savoir si notre expérience est une expérience qui se produit depuis l'espace où ça joue, quitte à s'arrêter pour, euh, pour penser, pour regarder, pour synthétiser, pour, tu vois, à faire varier la position très très vite, comme ça, par sa synthèse et machin. Ou si ça se produit depuis l'espace, où ça consomme, si tu veux, hein, pour le dire autrement, hein, pour brutaliser. Tu vois, je crois que c'est une question très importante. Par exemple, dans la question que tu posais tout à l'heure, Michel, excuse-moi de dire encore un mot, je vois deux questions, la fameuse célèbre question entre les acteurs, disons, les acteurs et les comédiens, certains ont produit ça et ça. Je vois deux questions. Une question, mais c'est deux questions très différentes. Hein. Il y en a une des deux qui recoupe ce que tu dis et une des deux qui n'est pas du tout ce que tu as dit. Ce que tu recoupes, ce qui est très profondément ce que tu as dit, c'est deux modèles du jeu aujourd'hui. Hein. Je crois que ces deux modèles du jeu, ils sont très importants. Je pourrais parler longtemps là-dessus, je ne vais pas le faire. Mais il y a une autre question qui n'est pas celle que tu as posée. C'est de savoir si on a affaire à un acteur ou à une image. Hein. Parce que ça peut aussi être ça. L'acteur qui est toujours lui-même dans tous les films et dans tous les rôles, c'est pas le cas de Denner, par exemple, du tout, hein, du tout, que tu as cité. Mais ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi, non pas l'acteur de cinéma qui se joue, mais l'image qui se reproduit. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, l'affaire est de savoir si on est dans le lieu d'une expérience, dans le lieu d'une identification à une image. Tu vois, c'est-à-dire, et cette question-là, moi, je la crois absolument, absolument, absolument importante. Politiquement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le lieu de la consommation des images? C'est une certaine pratique politique de la salle, tu vois, c'est ça que je sais, contre lequel tu te bats sans arrêt, hein, certaines pratiques politiques de la salle, et que relaye une certaine idéologie du spectacle, et puis, ou bien est-ce qu'on est dans le lieu de l'expérience des variations, des transformations, des métaphorisations, tu vois, et en un certain sens, lieu qui, à mon avis, aujourd'hui se joue sur scène. Quoi. Tu vois, même dans l'économie du spectacle, même dans l'économie de la culture, ce que Michel appelle et analyse très profondément comme le culturel, pour moi, c'est ça, cette marchandisation des images, si tu veux, dans lesquelles qu'on est invité à consommer. Pourquoi je durcis le truc pour dire est-ce qu'on est dans la pratique ou est-ce qu'on est au fond du fauteuil? Parce que le fond du fauteuil, c'est pas seulement la question de la position de goût, c'est aussi la position du consommateur écrasé par l'image, quoi. C'est-à-dire celui qui est là. Excusez-moi, alors attendez. Jeanne, c'est Jeanne votre prénom? C'est Jeanne, hein?
Oui, mon prénom c'est Jeanne. Ouais, j'interviens là. Enfin, il y a beaucoup de moments où j'ai eu envie d'intervenir. J'interviens là parce que, à propos justement de la distinction scène-salle, qui ne semble pas être une distinction, qui ne semble plus être une distinction extrêmement opérante. Pour ce qui est de traiter de la représentation, l'histoire du théâtre est pleine de modifications des dispositifs du rapport entre le spectateur et l'acteur, le danseur, le performeur, qui n'ont jamais fondamentalement modifié, enfin qui ont fait à très peu de reprises, mais qui n'ont jamais fondamentalement modifié, dans la mesure où ils prétendaient le faire, le rapport entre alors ce que nous on appelle avec Joris la fonction de l'acteur et la fonction de l'interprétation. C'est-à-dire que réduire la position du spectateur, s'il arrive au spectateur d'être écrasé au fond de son fauteuil, c'est bien parce qu'il y a sur scène quelque chose qui s'apparente à de l'idéologie, de la production d'images, de la production de métaphores, c'est-à-dire quelque chose qui ne se laisse pas interpréter, enfin, qui ne permet pas le travail du spectateur, c'est-à-dire qui ne permet pas la praxis du spectateur. Moi, j'aimerais beaucoup mieux distinguer entre une capacité pratique qui appartiendrait dans des mesures proportionnelles et inversées, aussi bien à la personne qui se trouve factuellement au fond de son fauteuil que à la personne qui se trouve sur le plateau. Évidemment, il ne se traite pas du tout de la même fonction pratique et de la même fonction de réception. Néanmoins, les deux fonctions sont présentes. Voilà. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la modulation, c'est-à-dire la variation entre ces deux fonctions des deux côtés de... dans les différents endroits, ce qu'on appelle la représentation. Beaucoup plus que cette dichotomie celle-ci, qui ne semble pas avoir... voilà. La question, effectivement, intéressante de savoir pourquoi est-ce que tout le monde veut aller sur scène. Moi, je pense que tout le monde veut aller sur scène à la fois pour des raisons qui sont liées au fait que cette figure de l'acteur est une figure, effectivement, politiquement centrale. C'est-à-dire, l'acteur, en tant qu'il fait varier, qui pratique de la modulation, c'est une figure politiquement centrale parce que, justement, elle sort de la dialectique. Il faudrait développer, mais ça c'est... Voilà. Et à la fois, tout le monde veut monter sur scène pour des mauvaises raisons, C'est-à-dire tout le monde veut monter sur scène parce que tout le monde reste prisonnier de cette idée que ce qui fait expérience, c'est d'être sur le plateau.
J'ai vraiment entendu des gens argumenter ardemment pour le fait que c'était une expérience très riche d'être sur scène. Tous les gens qui étaient d'être dans le fond d'un fauteuil, tous les gens que j'ai entendu argumenter très ardemment là-dessus étaient des acteurs, qui le disaient depuis la salle, depuis la scène. C'est-à-dire, tous les gens que j'entends argumenter puissamment sur le fait que c'est formidable d'être au fond d'un fauteuil sont des gens qui passent leur vie sur scène.
Mais peut-être que la pratique du plateau modifie la pratique de réception. Moi, il me semble évident que si on peut être d'accord absolument avec le fait que le caractère artistique, encore faudrait-il définir les termes, mais bon, le caractère artistique du travail de l'acteur réside non seulement dans sa capacité à recevoir la propre production à laquelle il participe, mais en plus à le faire en temps réel, parce que de ça il faudrait reparler, c'est-à-dire que la temporalité, moi je ne sais pas si l'acteur y fait œuvre ou pas, ce qui est clair c'est que l'acteur il œuvre en temps réel. Et je ne sais pas si l'œuvre de l'acteur est volatile ou pas, mais cette synthèse non dialectique, enfin, cette circulation non dialectique entre analyse et synthèse, elle se passe complètement différemment pour l'acteur parce qu'il le fait en temps réel. Et c'est la même chose pour l'opération de réception, qui est aussi une opération circulante qui oscille entre synthèse et analyse, à mon sens. Hein. Là encore, il faudrait développer davantage. Mais le fait que ça se passe en temps réel différencie évidemment le travail de l'acteur du travail de Fellini, qui peut-être mène une opération analytique sur le plateau et une opération de synthèse au dérochage, mais après le dérochage, il y a le montage, qui serait une autre opération analytique, etc. etc. Donc, voilà. La question, c'est, à mon avis, beaucoup plus que de savoir si tout le monde veut aller sur le plateau, et c'est vrai, et tout le monde veut aller sur le plateau, parce que la fonction de réception est en général ramenée à quelque chose qui ressemble à de la consommation, en effet, et pas à une praxis. La question, c'est de savoir comment ça se passe, parce que, évidemment, la réception qu'on pratique sur le plateau, c'est pas une réception qui est la même, et là-dessus, il faudrait revenir aux différentes sources de jugement, c'est pas du tout une réception qui est la même que celle qu'on peut pratiquer comme spectateur, juste parce que la praxis du spectateur, c'est celle, enfin, de la personne qui se trouve au fond du fauteuil, c'est celle de recevoir, et c'est tout, alors que l'acteur doit composer sans cesse entre un faire et un recevoir. Bon. Et là-dessus, voilà, il faudrait revenir aux différentes formes de jugement. Moi, ma lecture de Kant, elle est bien, bien lointaine, donc je ne vais pas être très, très opérante, mais il faudrait, voilà, regarder quel type d'affects sont en jeu. Dans le fait de jouir de sa propre pratique d'acteur au moment où on essaie d'en avoir une compréhension analytique, et parce que les deux phénomènes sont liés, comment est-ce que varie dans cette pratique commune la fonction de réception, une fonction de réception qui est plus courte, on va dire, qui est différente quand elle doit s'apparier à un fer.
Moi, je pense que dans l'appareillage, je pense que comme grammatisation, fauteuil, ça doit être passablement bouleversé. Quoi.
Bah, c'est l'endroit de la production du sens, c'est pas rien.
Ah non, moi, je crois pas que c'est du tout l'endroit de la production du sens. Hein.
Moi, je pense que le fauteuil, c'est un instrument dans un processus.
C'est ça, voilà. C'est un processus, spectateur, c'est pas dans un processus.
Dans lequel il s'inscrit, qu'il le fait.
D'accord.
Il y a 36 000 sortes de fauteuils. Ça dépend de qui s'assoit dedans. Et comment il est outillé avant et après et pourquoi faire. Vous venez de parler de temps réel. Et ça, évidemment, je suis très attentif à cette question fondamentale. Mais la répétition vient précisément en même temps qu'à ces temps réels. Et pour moi, il y a un moment de la performance, enfin, de la performance. En anglais, qui est là, très évidemment, dans le temps réel. Mais tout ce que dit Diderot, c'est précisément c'est ce moment de la performance du temps réel est totalement, en fait, une espèce de. Alors là, une synthèse au sens dialectique que je n'ai pas employé, mais enfin, une sécrétion de la répétition qui, elle, n'est pas du tout en temps réel. Et qui est là, voilà. Profondément de la grammatisation, parce que sans la grammatisation du texte, on ne pourrait pas y avoir cette répétition. Or, je dis ça pourquoi ? C'est parce que vous parlez de pratique du spectateur, et moi je crois, et Denis plus que tout autre, croit à la
mais je crois à une révolution de la salle. Moi. Je crois une... Non, mais c'est là qu'est le problème. Pratique spectateur, on y croit tous, mais ou bien c'est une pratique asservie, ou bien c'est une pratique révolutionnée. Moi je crois à une révolution de la pratique du spectateur.
Non, chose.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Mais je suis passe par le passe par son fauteuil.
Je souhaite dire une des questions que je crois qu'on peut poser aujourd'hui à partir du texte de Diderot à l'époque, c'est la pratique de répétition du spectateur. Parce que une des choses que l'industrie culturelle, quand même, le monde dans lequel nous parlons, est le monde des industries culturelles, d'Adorno, de la reproductivité technique de Benjamin. C'est ça, dans notre cadre appareillé. Avec des tas de choses que Benjamin n'avait pas vues, évidemment, ni hein, Adorno encore moins. Mais, néanmoins, c'est quand même ça. Et c'est le monde du culturel, dans ce sens-là. C'est l'industrie culturelle. C'est un monde qui a fait. Qui a lésé un certain type de répétition au profit d'une autre répétition. Alors là, tu parlais de Deleuze, il y a deux répétitions, il y a la bonne et la mauvaise répétition. Et la question de la répétition est au cœur de ce nom. C'est absolument fondamental. Moi je dis, n'arrête pas de le répéter dans cette boutique qui s'appelle le Centre Pompidou. Si vous n'obligez pas le public à pratiquer la répétition, vous ne faites pas votre boulot. Parce que ça n'existe pas par rapport à une œuvre qui ne passe pas par là.
C'est-à-dire mettre le spectateur dans le même rapport de l'interprète, en fait. C'est-à-dire pas uniquement dans la réception de quelque chose de fini, mais dans l'idée que la chose doit être reconduite.
Et... Je dirais pas de l'interprète, mais de la variation, pour reprendre un terme que tu as employé tout à l'heure. C'est-à-dire, pour moi j'ai pratiqué la poésie à une époque, dont celle de Michel, je l'oralisais systématiquement. Parce que je pense qu'un poème, il faut le dire. Même si j'étais très choqué que Mallarmé disait ses poèmes. J'ai toujours pensé qu'il aurait mieux fait de se taire. C'est un peu sacrilège de dire ça, mais parce que je pense que Mallarmé, c'est de l'écrit. Mais en même temps, moi, par exemple, je ne peux pas avoir un rapport à Mallarmé sans le dire. Or, je ne peux le dire qu'en le répétant. C'est, autrement dit, je travaille. Je ne peux... accéder à la poésie quand la poésie me travaille, sinon c'est zéro, ça n'existe pas. C'est pour ça que ça s'appelle de la poésie, de la production. Je me produis dans la poésie. Je pense que le cinéma c'est pareil. On peut très bien ne pas revoir des films. Moi je suis un grand malade, maniaque, donc je revois énormément de films, et du coup il y a plein de films que je ne vois pas. Parce que chaque fois que je revois un film, c'est un autre film que je ne vois pas. Mais il y a aussi une manière de répéter qui est de dire je ne vais pas revoir tous les films de tel, mais je vais voir les films de tous les films de ce type-là, c'est ce que je fais avec Kieslowski en ce moment. Et ça, ce sont des pratiques de répétition. Et je pense que dans les dispositifs et dans la révolution dont tu parles, la question de la répétition est fondamentale.
Mais voilà, mais parce que pour ce que c'est en fait la question de l'appareillage, et là, moi maintenant, pour le coup, j'y tiens pour de bon. Un spectateur de cinéma. On a dit, j'ai entendu une partie des discussions, on disait, à juste titre, c'est très important d'aller au cinéma, de se mettre au fond d'un fauteuil, de regarder un film du début à la fin, sur un grand écran, c'est fondamental. Mais ce spectateur de cinéma, il peut, et nous le souhaitons, et d'ailleurs qu'on le souhaite ou pas, il le fait sans nous, avoir la possibilité d'avoir des appareillages multiples, de regarder son film autrement, de s'arrêter, de se lever, de repasser trois fois le même truc, d'aller le commenter, d'utiliser ligne de temps avec les possibilités, semble-t-il, énormes que ça ouvre, etc. C'est un appareillage qui, on peut dire, il y a une espèce de position qui se transforme, et d'ailleurs, ils n'ont pas demandé notre autorisation. Ils l'ont fait, bon. Au théâtre, on dit, c'est super actif d'être au fond de la salle, c'est super actif, vous savez bien que c'est super actif. Mais qu'est-ce qu'il fait, le pauvre type qui est au fond de la salle, à part s'écraser au fond de son fauteuil pendant 3 heures, avoir pas le droit de dire un mot, avoir pas le droit de se lever, créer un problème s'il va aller faire pipi, problème que je connais bien, si vous voulez, aller, se faire engueuler par sa voisine s'il respire trop fort, etc., et pas pouvoir se dégourdir les jambes, être mal assis et tout ça, et quand il est rentré chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète le livre, il relit la pièce. Mais bon, c'est tout. Et moi, je suis pour un nouvel appareillage du spectateur. Merci pour la conseil. Je suis pour une transformation de l'appareillage du spectateur. Je suis pour que la possibilité. Alors, je ne suis pas pour dire.
Il faut que nous fassions des lignes de temps théâtrales.
Oui, c'est ça. C'est pas pour dire qu'on n'a pas le droit, qu'il n'est pas bon à un moment donné de voir un spectacle, de le voir comme une continuité. Bien sûr, au contraire, c'est pas du tout pour dire ça. Mais c'est pour dire que si c'est seulement ça, c'est une pratique d'asservissement corporel. Et je dis, je ne vois jamais de défenseur plus ardent de cette position-là que les gens qui se défoncent sur le plateau. Hein. C'est-à-dire les gens qui se lèvent, qui bougent, qui machin, tout truc, qui agitent, qui vont, et puis qui disent c'est super de rester 3 heures dans la salle. C'est-à-dire, regardez les metteurs en scène, quand il, comédien en grande partie, ils n'y arrivent pas à rester assis dans la salle. Hein, c'est bien connu. C'est-à-dire, si, enfin, voilà. C'est-à-dire, ils.
La plupart des acteurs sont des grands spectateurs.
Oui, mais justement, mais justement.
Comment je dirais, mais justement, beaucoup de spectacles.
Mais parce qu'il faut travailler.
Ils ont l'expérience de la variation. Alors, si on garde. Si on garde.
La plupart des acteurs sont des très bons spectateurs, mais alors ça veut dire que les spectateurs. Des bons acteurs. C'est-à-dire que c'est la position de spectateur, c'est une position, parce que je dis dans le cas technique, c'est une position d'acteur en pire. C'est ça, ça passe, sa possibilité de renouvellement. Et donc, parce que nous ne sommes pas seuls entre amateurs d'art à discuter si c'est bien ou pas bien d'être au fond d'un fauteuil. Nous sommes dans un monde qui est le monde d'un asservissement à l'image, hein, et qui est en. Qui est. Alors, comme moi, je trouve que tu as tout à fait raison de dire que dans les techniques. Il y a à la fois cet asservissement et à la fois la ressource pour la transformation de ça. Je suis complètement d'accord avec ça, profondément d'accord avec ça. Parfois au théâtre, le seul mouvement que je vois au théâtre, et je le vois très fort, pour bouleverser ça, changer ça, transformer ça, la vitalité du théâtre, hein, la vitalité du théâtre, c'est les gens qui aujourd'hui font les troupes, veulent faire du théâtre, c'est vous. Moi, enfin, c'est ça la vitalité du théâtre. La vitalité du théâtre, c'est pas les associations de spectateurs ou les ventes d'abonnements, c'est pas ça. Et la vitalité du théâtre, c'est le mouvement social d'une très grande profondeur des gens qui veulent jouer. Alors, et en effet, ces gens-là font de très bons spectateurs, en effet, parce que ce sont eux qui ont la passion de ça, et parce qu'ils veulent jouer. Hein. Et c'est ça qui fait la vitalité du théâtre aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et donc le processus de transformation, le seul processus qui est trouvé les spectateurs pour révolutionner le rapport à la pratique de la faculté de juger un spectacle comme spectateur, c'est d'aller jouer. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on esquive cette difficulté-là. Et je crois qu'il faudrait essayer de passer la parole à Chérine.
Il y a trop de choses à dire, mais non, donc là, c'est... Il y a peut-être trop de choses, mais en plus je devrais partir, mais je vais juste revenir vite fait aux trois, au modèle des époques en fait. Et ce que je vais dire, c'est peut-être aussi, ça a trait aussi à quelque chose de grand trait finalement. Parce que si on dit donc intériorité sage, expression romantique, et aujourd'hui donc avec Sloterdijk, expérience sur soi, pour produire des variétés. Moi, j'ai l'impression que finalement, n'est-ce pas, déjà, on pourrait se poser la question pourquoi l'humanité aurait commencé avec le sage, pour passer à l'expression et arriver à là où on est aujourd'hui. Et on avait donc Sarah Kay, le livre-là, qui a parlé de l'aliénation et de pouvoir parler de ce qui est avant et le ramener à aujourd'hui. Et donc, une sorte d'une capacité même de se jeter dans l'histoire et ramener ça au contemporain. Alors si on a donc cette troisième, je sais pas, une sorte d'étape ou je sais pas quoi, ce serait presque pour dire, est-ce que l'humanité, parce qu'on parle de culture, de la nôtre, mais il y en a d'autres, je veux dire, c'est comme un vocabulaire qui serait capable d'être modifié et d'avoir en avant, on dit Ausprägung, donc de quelque chose donc qui prend une forme à un moment, qu'on peut arrêter en effet, mais qui reste flux, comme d'ailleurs les langues naturelles qui se modifient, qui continuent, et puis qui nous laisse comment dire, c'est comme si si là on essayait même d'avoir les deux, le sage et l'expression à la fois, peut-être sans l'œuvre mais avec le montrer, et cette participation qui serait peut-être une sorte de d'opposition à la consommation, mais qui frôle tout de même cette idée de se consommer soi-même. Je sais pas, c'est quelque chose comme si il y avait, parce qu'il y avait les deux extrêmes, donc quelqu'un qui est assez assujetti à l'image et l'autre qui va justement sur scène et qui veut jouer, comme si ces deux extrêmes étaient là pour c'était juste une Ausprägung, je sais pas comment dire, mais je trouve pas le meilleur mot en français en fait pour ça, donc une cristallisation, c'est pas ça, mais de ce qu'on traverse en tant qu'être humain sur cette terre depuis des siècles et des siècles. Enfin, j'ai dit, c'est à grand trait ce que j'ai dit, mais c'est...
On va chercher quelque chose sur
avec l'empreinte. Écoutez, une des singularités de cette séance par rapport à toutes les autres, c'est que nous dépassons l'heure, alors qu'habitude on s'arrête soigneusement à midi. Donc on me fait des signes pour m'indiquer qu'il y a des gens qui doivent s'arrêter. On pourrait continuer encore un moment. Donc, en principe, si tout se passe, normalement, on se retrouve le 5 février pour le programme qu'on vous a dit.
y a des gens qui pourraient dire quelque chose dans la mais c'est comme humour, les gens en fait. Et là, je pense aussi à ce monde de théâtre et la performance, il faut en parler plus.